I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Et là, je parlais et je disais, mais tu te rends compte, à chaque fois que je dois aller à l'hôpital, je dois mentir à mes amis. Plus je grandis et plus je suis en décalage avec mes copains qui sont plus normaux que moi. Et du coup, je dois trouver des excuses pour ça aussi. Quand je prends mes traitements, il faut que j'ai des excuses pour ça. Quand j'ai ma piqûre qui me fait super mal et du coup, je boite, il faut que je trouve des excuses pour dire... Et au bout d'un moment, ta vie, c'est plus qu'un immense mensonge. Je pouvais pas avoir de partenaire sexuel ou amoureux parce que j'avais trop peur des regards qu'on pouvait me porter. Voilà, je pouvais pas me faire soigner parce que j'avais trop peur alors que j'étais malade. Enfin, c'était dangereux au bout d'un moment. Et surtout, je vivais dans un état de mensonge, d'isolement, prisonnier de mes propres stigmates finalement. Et j'avais tellement peur de l'autre que finalement, c'était cette peur-là plus que le regard de l'autre qui était dévorante. Et à partir de là, je me suis dit, bon, bah, je pense qu'il est temps que je le dise.
Extimité. Le désir de rendre visible une partie de sa vie intime afin de mieux se l'approprier.
Je m'appelle Micha, je suis intersexe et je suis militant, voire activiste intersexe, et je fais partie du collectif Intersexe et Alliés chez l'Organisation Internationale Intersexe, qui est la seule association par et pour les personnes intersexes actuellement. Et je ne sais pas si je le dis maintenant, mais je sais qu'à la suite de cet entretien, il y aura des questions qui seront abordées qui pourraient être un peu difficiles. Et voilà, je me permets juste de faire un petit trigger warning, il y aura peut-être des choses un peu hardcore qui vont être évoquées, et je pense que c'est important que les auditeurs le savent ce qui nous attend.
Micha, quand tu te regardes dans le miroir, qu'est-ce que tu vois ?
Alors ça a été tout un processus aussi. En tant que personne intersexe, et spécifiquement en tant que personne intersexe dont la variation est relativement visible et qui garde des traces des opérations, des traitements, c'est vrai que quand on regarde son corps, je pense que la première chose qu'on voit, c'est absolument rien. C'est un néant total, parce qu'on est en totale dissociation en fait avec notre corps et qu'on a beaucoup de mal à comprendre que c'est notre corps dont il s'agit. Donc c'est une question très vague et très particulière pour une personne intersexe. On peut voir à la fois qu'on a été très abîmé, on peut voir à la fois qu'on est en dehors des normes sexuées qui sont encore très présentes et très envahissantes dans nos représentations en termes de diversité des corps ou même de société en fait, à quel point la société est binaire et divisée en deux groupes qui sont les hommes stricts et les femmes strictes. Donc il y a plein de choses qu'on voit et qu'on ne voit pas, mais moi la première chose qui me vient à l'esprit, c'est vraiment ce côté complètement dissocié de sa propre anatomie, de sa propre enveloppe. C'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans les vécus intersexes, de ne pas se reconnaître en fait, et de ne pas comprendre, de ne pas faire le lien entre soi et son corps, comme si notre corps ne nous appartenait pas finalement.
Est-ce que tu veux bien nous raconter ton enfance ?
Moi j'ai eu un... Alors je vais peut-être rappeler ce que c'est qu'être intersexe déjà. Les personnes intersexes, c'est des personnes qui ont un corps, une anatomie, qui ne correspond pas aux définitions traditionnelles du masculin ou du féminin. Un homme, c'est censé être tel composant anatomique, tel taux hormonaux, tels organes génitaux externes ou internes, tout ça. Et une femme, c'est censé être un peu l'opposé complet de ça. Et les personnes intersexes, elles se situent dans le spectre qui existe entre les deux, en gros. Donc ça peut être très varié, c'est des variations, et on compte une quarantaine de variations pour celles qui sont répertoriées, il y en a qui ne le sont pas. Voilà, et du coup il y a une grande diversité dans les variations intersexes. Moi c'est vrai que au-delà de l'approche du corps, l'approche typiquement anatomique, physiologique, moi je préfère l'approche du vécu social qui me paraît plus intéressante et moins fétichisante. Les personnes intersexes, c'est surtout des personnes qui ont vécu une invalidation médicale, social mais surtout médical de leur corps, c'est-à-dire que c'est l'autorité médicale, et quand je parle d'autorité médicale, j'insiste sur le mot autorité, c'est une autorité qui est morale, qui est institutionnelle, qui est symbolique, qui est étatique, c'est une autorité quasi absolue qui parfois même va au-delà des lois ou qui fait les lois, on l'a vu avec la loi de bioéthique, et ça concerne beaucoup beaucoup les personnes intersexes. Donc voilà, dans l'immense majorité, les personnes intersexes, c'est des personnes qui existent en dehors des normes sexuées, et qui, pour ces raisons-là, vont être invalidées par la médecine. La médecine va décider qu'on n'est pas assez normaux pour exister, pas assez normés en tout cas, va nous invalider, voire nous traiter, voire nous corriger, c'est leur mot. Hein. Donc voilà, je tiens juste à préciser ça pour qu'on comprenne que mon enfance, elle a été marquée par cette invalidation. Moi, j'ai une variation visible, très apparente. J'étais vraiment entre les deux, comme on peut dire. Du coup, j'ai vécu un certain nombre d'opérations. Elles n'ont pas été si nombreuses que ça par rapport à d'autres. Il y a quand même des gens qui vivent jusqu'à une trentaine d'opérations entre l'enfance et l'adolescence. Enfin, c'est énorme. Moi, j'en ai eu... Je suis même pas sûre, parce que, comme je te le disais tout à l'heure, les personnes intersexes, en tout cas, un sacré nombre de personnes intersexes n'ont pas accès à leurs dossiers médicaux ou ont accès à des dossiers médicaux qui sont incomplets. Voilà, donc quand on demande nos dossiers médicaux, on va nous faire croire qu'il a été perdu. Déjà, ça pose la question de la responsabilité du médical et la responsabilité dont ils ont conscience, parce que s'ils veulent pas nous transmettre ce genre de trucs, c'est que ils ont peut-être des trucs à cacher, voilà. Donc voilà, j'ai vécu cette invalidation. Pour être honnête, même si les opérations ont eu des répercussions directes sur ma santé mentale, mais physique aussi, quand on parle de mutilation, c'est quelque chose, je sais pas, parmi votre audience, si les gens sont particulièrement informés et éduqués à la question intersexe. Nous, notre campagne de sensibilisation, elle s'axe surtout sur les mutilations. Les opérations que vivent les enfants intersexes, ils sont des opérations normatives et correctrices, sous prétexte notamment que leurs organes génitaux sont pas conformes, entre gros guillemets. C'est des opérations qui ont des conséquences gravissimes, en fait, sur la santé mentale et physique des personnes. En termes de santé mentale, on aura des conséquences, évidemment, de gros stress post-traumatique, mais aussi de dépression, de dissociation. Ça nous rend plus vulnérables aux violences sexuelles ou, voilà, tout ce qui est consentement, c'est pas très clair non plus, parce qu'on nous le demande pas, en fait. Et puis en santé physique, on aura aussi beaucoup de problèmes, des handicaps, des infections, des douleurs chroniques, des insensibilités. Enfin, ça peut aller très très loin. C'est des opérations qui ont des grandes conséquences. Et je le rappelle, mais les corps intersexes, dans leur grande majorité, c'est des corps qui sont sains et fonctionnels. C'est-à-dire que c'est des corps atypiques, qui ont des variations différentes et variées, comme je l'ai dit, mais qui n'ont pas de conséquences néfastes sur la santé. Donc ces opérations qui sont réalisées sur nous et ces traitements et tout ça, c'est principalement motivé par des raisons cosmétiques, esthétiques et normatives. C'est-à-dire, il faut qu'on corresponde à un idéal. Cet idéal a été plus ou moins décidé par la médecine, qui elle-même est influencée par nos systèmes patriarcaux, hétéronormés, blancs, enfin occidentaux, etc. Donc voilà, c'est vraiment une histoire de pression et d'oppression, finalement. Donc voilà, il y a les mutilations d'une part. Ce qu'on appelle les mutilations, c'est les opérations mutilantes. C'est pas seulement nos mots, hein, c'est des mots qui ont été aussi repris et utilisés par des grands organismes de défense des droits humains. Je le dis souvent dans mes articles ou dans mes interviews, mais l'ONU, par exemple, a qualifié ces opérations d'actes de torture. C'est quand même pas rien. Il y a eu Amnesty International, il y a eu Human Rights Watch, il y a eu le Défenseur des Droits aussi qui commence à remettre en cause ces pratiques. Et pourtant, l'État et le pouvoir public ne s'emparent pas du tout de cette question, ne se mobilisent pas correctement sur ces questions. Juste pour dire qu'on parle beaucoup de mutilations, mais que les mutilations, c'est juste une seule partie, finalement, de ce vécu d'invalidation médicale et de correction anatomique, physique. Enfin, ce que la médecine veut, c'est nous effacer en tant qu'intersexe, c'est le fait qu'on ne puisse pas exister socialement en tant qu'intersexe. Et du coup, ça va être, ouais, je sais pas comment dire autrement, mais effacer nos identités, effacer tout ce qui peut révéler qu'on est intersexe. Donc, nous invisibiliser totalement. Et donc, ce vécu, il passe par des opérations correctrices parfois. Il passe aussi par des traitements, notamment hormonaux, de substitution, qui sont censés rééquilibrer nos taux hormonaux, mais qui peuvent avoir des dégâts phénoménaux aussi sur nos corps. Et moi, quand j'étais enfant, par exemple, j'ai eu des bloqueurs d'hormones pour éviter que ce qui est considéré comme les mauvaises hormones puissent agir sur mon corps. Donc j'ai eu des bloqueurs, et les bloqueurs ça peut avoir des grosses répercussions. Moi c'était par piqûre, donc j'avais des bleus par exemple quand j'étais petit. Et puis j'ai eu des opérations, et puis j'ai eu surtout beaucoup beaucoup d'examens. Et on a tendance à pas forcément porter l'attention sur les examens qui sont pratiqués, parce que c'est vrai que les opérations mutilantes c'est quand même un peu spectaculaire, et que c'est un peu l'urgence aujourd'hui. Il y a quand même des dizaines de milliers d'enfants chaque année qui se font mutiler, hein, on parle de ce genre de chiffres, c'est vraiment pas, on a l'impression que les personnes intersexes sont extrêmement minoritaires et que ces actes-là sont exceptionnels et que les médecins vont tout faire pour les éviter. Non, en fait, c'est exponentiel, c'est des actes qui se poursuivent et qui se perpétuent de plus en plus aujourd'hui. Mais en tout cas, moi, c'est les examens qui m'ont le plus marqué en tant qu'enfant. c'est le fait qu'on peut, on puisse venir par exemple te chercher à l'école devant tous tes camarades pour que tu ailles subir un examen qui est censé vérifier si tu as une partie d'utérus ou un utérus ou pas d'utérus ou voilà, devant tous tes potes. On t'explique jamais hein, ce qui t'arrive. C'est aussi se faire palper les parties génitales régulièrement par des médecins. Il y a des médecins qui masturbent des enfants actuellement, il y a des médecins qui prennent des photos de nos parties génitales, qui vont ensuite utiliser dans des exposés ou dans des colloques ou voilà, ou pour instruire finalement leurs internes et tout. Il y a des moments où par exemple on me mettait devant un rideau blanc et on faisait venir des internes alors que j'étais enfant, tout nu devant eux, et que voilà, juste pour montrer en fait qu'est-ce que c'est une personne intersexe. Et ils ne disent jamais le mot intersexe, hein, faut le savoir. Les médecins considèrent qu'on est des malades. Les médecins, ils considèrent l'intersexuation comme une pathologie, sous le seul prétexte que c'est une variation anormale, en tout cas anormée, on peut dire. Et du coup, pour eux, c'est même un désordre du développement sexuel, c'est leur mot. Donc ces désordres-là, ces anomalies, ces maladies, il faut les montrer, il faut les étudier, il faut surtout les éradiquer, quoi. Donc on a des examens, on a des palpations, il y a beaucoup de petites filles qui ont aussi, par exemple, des dilatations vaginales à la bougie quotidiennement. Voilà, on a tout un tas de petits gestes comme ça. Et d'ailleurs, les médecins, c'est une camarade qui me faisait la réflexion hier, mais les médecins ne parlent jamais d'actes chirurgicaux, alors que c'est des actes très conséquents, qui sont parfois réalisés sur des bébés de quelques jours, voire quelques mois, sous prétexte que les tissus sont plus élastiques, donc que c'est plus facile, finalement. Voilà, c'est une histoire de technique, finalement. Les corps sont plus souples quand ils sont bébés, du coup, on va les opérer petits. Alors, c'est hyper dangereux, parce que c'est tout petit, c'est tout fragile. Tout ça pour dire qu'on ça passe par ce qu'ils appellent, eux, des gestes, alors que c'est des actes extrêmement conséquents. Ils vont parler de gestes comme si c'était un peu anodin, finalement. Et c'est un... Moi, mon enfance, elle a été marquée par un tas de petites choses, finalement. J'ai beaucoup de souvenirs plus ou moins clairs. Ils sont jamais très clairs, parce que je pense qu'on a un peu envie de les oublier et de les enfouir en tant qu'enfant. D'autant plus qu'on ne comprend pas de quoi il s'agit. On nous dit qu'on est malade, mais on ne sait pas trop pourquoi. On constate qu'on a beaucoup plus mal et qu'on est beaucoup plus malade quand on prend des traitements ou quand on subit des opérations. Donc c'est pas très clair. Notre consentement, il est jamais demandé. Il est jamais éclairé. On nous dit, t'as une maladie, nous on va te soigner, est-ce que t'es d'accord? Bon, bah, en général, on dit oui, quoi. Même si on connaît pas la maladie, on fait confiance à nos parents. Et puis, il faut savoir que les parents sont tellement peu informés et peu accompagnés, qu'ils sont complètement perdus quand ils ont un enfant intersexe. Et que les médecins vont leur dire, bon, bah, voilà, votre enfant n'est pas intersexe, parce que ça n'existe pas, c'est pas un terme médical. Mais il a ce désordre-là. C'est très grave, il pourra jamais avoir une vie normale. Parfois même, ils vont jusqu'à mentir, les médecins, ils vont nous faire croire qu'on a des cancers, ou qu'on a des risques de cancer, ou de tumeurs, ou de maladies très graves. Et que, du coup, il faut absolument nous rendre normal, et heureusement, ils savent le faire, quoi. Donc, ils vont nous sauver. Voilà, donc, et c'est le seul, c'est la seule personne de référence, le seul point de vue que les parents ont. Donc, les parents acceptent en général tout, en fait. Ça veut pas dire que les parents sont pas responsables, mais moi, j'en veux beaucoup moins à mes parents, par exemple, enfin, à ma mère, comme médecin qui, savait très bien les conséquences que ça pourrait avoir. Et voilà, c'est des choses qui connaissent, en fait, et qui continuent de pratiquer. Voilà, moi, j'ai des souvenirs, ouais, justement, qu'on venait me chercher à l'école pour subir des examens. J'ai souvenir que j'avais très, très peur de l'hôpital, que parfois, je devais y rester plusieurs jours et que ma sœur restait avec moi. Elle voulait toujours m'accompagner. Donc ça, c'est quelque chose qui me touche beaucoup quand j'y repense. Et puis, voilà, j'ai souvenir que je piquais des crises phénoménales parce que je pense que j'avais peur et que j'avais pas envie d'avoir mal. Et j'étais un enfant très très colérique, et ce qui m'a plutôt servi finalement, parce que c'est vrai que je ne me laissais pas faire si facilement que ça. Il y a un moment, par épuisement et par confusion et par stress, on est complètement... un peu comme quand on subit un viol, hein, finalement, c'est de l'ordre de la violence sexuelle, hein, des médecins qui te palpent, qui te pénètrent parfois, qui te... Voilà, c'est il y a un peu la même réaction, tu vois, de dissociation justement, que j'ai évoqué, et puis on attend que ça passe, et puis ça finira pas passer, puis après on va oublier et tout ça, et on sait très bien, à l'âge adulte, on se rend compte qu'on n'a rien oublié, finalement, et qu'on a un très gros stress post-traumatique qui nous rend très frileux face à tout ce qui concerne les soins, tout ce qui concerne l'hôpital, tout ce qui concerne les blouses blanches, comme je les appelle. Je sais pas si j'ai eu une enfance particulièrement médicalisée. Moi, j'ai tendance à penser que oui, de plus en plus. Parce que même si j'ai subi 5-6 opérations, ce qui est déjà pas mal en fait, mais j'ai surtout souvenir de ces examens-là, de cette sensation permanente de ne pas être normale et surtout de ne pas être tolérable en fait. Que j'étais pas censée exister en l'état, que c'était pas tolérable que j'existe dans la société comme ça, J'avais pas de représentation, il n'y a pas de personnes intersexes au cinéma, dans les dessins animés, dans les livres. Il n'y a pas de personnes intersexes dans les livres de biologie. Donc à l'école, on se rend compte qu'en fait, on ne correspond à rien de ce qui existe. On est tout seul. Et les médecins, en plus, nous font croire qu'on est unique au monde, souvent. Ils nous font croire que c'est très, 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 très rare ce qu'on a. Et moi, on m'a dit quasiment que j'étais un cas rarissime, voire inédit, en fait. Et c'est pas vrai. Il y a plein de personnes intersexes, comme je l'ai dit, avec des variations différentes. La mienne, elle est un petit peu rare par rapport à d'autres, mais je suis pas tout seul, quoi.
Ça va sembler très prosaïque comme question, mais de cette enfance en pointillé, est-ce que tu peux nous donner des détails géographiques, par exemple? Où est-ce que t'as grandi? Ta sœur, elle avait quel âge par rapport à toi?
Ma sœur est un peu plus âgée que moi, mais pas tellement. Elle était surtout très... C'est quelqu'un de très fort et très, très protecteur à cette époque-là. Et ma mère était un peu... J'avais un père très particulier, violent, et pas qu'avec nous, avec ma mère aussi. Du coup, ma mère était très perdue. C'est quelqu'un qui a elle-même vécu un certain nombre de violences, hein, comme beaucoup de femmes, j'imagine. Du coup, elle avait beaucoup de mal à se défendre et à m'accompagner correctement là-dedans. Et du coup, ma sœur, je pense que, de par son caractère très costaud, avait plus de facilité peut-être, et peut-être aussi moins de culpabilité, moins de... Les parents, ils sont quand même dans une situation où, ne serait-ce que signer un document, parce que c'est le consentement des parents, du coup, qui est obligatoire, pas le nôtre, ni celui des médecins. Les médecins ont quand même besoin du consentement des parents. Et les parents, s'ils acceptent, la vie de leur enfant va être changée du jour au lendemain. Et je pense pas que c'est des décisions qui sont si faciles à prendre, même s'ils sont convaincus, même si on leur dit, bah, si vous acceptez pas, votre enfant va avoir un cancer. Ils savent quand même que dans la salle d'opération, on touche à des zones hyper intimes et que ça aura des conséquences irréversibles. Donc je pense que pour les parents, c'est très compliqué. Donc j'ai pas eu la sensation d'avoir été bien accompagnée par mes parents là-dedans. On m'a jamais expliqué non plus trop ce que j'étais. Par contre, on m'a laissé être, au niveau de l'identité de genre et tout ça, on m'a laissé être très libre. Parce qu'il faut savoir que quand je suis née, j'ai d'abord été assignée d'un sexe puis d'un autre. Les médecins ont changé d'avis après. Et ça a beaucoup marqué ma mère. Et du coup, elle m'a toujours considérée comme, enfin, quand j'étais petite, on disait que j'ai un frère et une sœur. Et on disait que mon frère, c'était un garçon, ma sœur, une fille, et que moi, j'étais entre les deux. Donc ça, je le savais déjà, en fait. Mais c'était pas stigmatisant, c'était pas d'un point de vue moqueur ou dégoûté ou quoi, c'était juste comme ça, en fait. Du coup, ça, j'ai eu de la chance par rapport à d'autres personnes intersexes qui ont, où les parents ont vraiment voulu les astreindre dans un petit cadre. Par exemple, une personne intersexe qui a été assignée fille, fallait vraiment qu'elle soit une fille à tous les points de vue, et tout petit zeste de masculinité était gommé aussitôt parce que les parents flippaient que ça puisse faire ressurgir une intersexuation mentale ou je ne sais quoi. Moi, j'ai jamais eu ça. Jamais, jamais. Ma mère m'a jamais dit, bah voilà, t'as un sexe, maintenant tu t'y tiens ou quoi. Elle m'a laissé explorer ça tranquillement, donc ça, j'ai eu de la chance. Je me rappelle pas de tous les hôpitaux où j'ai été, et j'avoue que je préfère pas trop en parler parce que je veux pas non plus avoir trop de problèmes et pas risquer de dire des bêtises aussi. Mais j'ai aussi vécu dans des pays étrangers, moi, quand j'étais plus jeune, notamment dans les pays de l'Est où j'avais de la famille là-bas. Et c'est là que j'ai vécu les choses les plus graves en ce qui me concerne.
Nous ne sommes pas une quantité négligeable que l'on peut reléguer au second plan. Nous ne sommes pas une causa de femmes, des ours polaires arc-en-ciel que l'on peut chercher à sauver pour gagner des points. Nous sommes des femmes, des hommes, des personnes non-binaires, capables. Nous sommes experts de nos situations et vous vous devez d'inclure nos réalités, de les joindre aux vôtres et de nous écouter. Nous revendiquons l'arrêt total des opérations et des traitements pratiqués sur les enfants intersexes sans leur consentement, en dehors d'un risque vital. La dépathologisation de nos corps, le droit à l'autodétermination, le respect de notre dignité et de notre intégrité physique et morale. En gros, nous demandons le respect de nos droits humains les plus fondamentaux.
Intersexe, sans complexe, autodétermination, arrêt des mutilations. Intersexe, sans complexe, autodétermination.
Enfin, c'était pour répondre à ta question sur la géographie. Moi, j'ai vécu dans plusieurs pays quand j'étais petit. Et dans plusieurs régions, donc j'ai pas forcément les hôpitaux en tête, c'était principalement des hôpitaux parisiens. Voilà, parfois c'était des cliniques. Et voilà, il y a eu notamment des choses dans les pays de l'Est aussi quand j'étais ado, on va dire, jeune ado. notamment en Lituanie. Et en fait, à la base, quand j'étais en Lituanie, j'avais des douleurs au bas-ventre, ce qui peut être effectivement une des conséquences des opérations. Seulement moi, j'avais... Enfin, faut savoir, quand on est enfant, on sait qu'on vit des opérations, on sait qu'on est malade, on sait qu'on est différent, mais on comprend vraiment pas, et ça j'insiste, hein, parce que c'est propre au vécu intersexe, c'est qu'on ne comprend pas ce qu'on nous fait. On ne nous dit pas ce qu'on est, on ne nous dit pas ce qu'on a, et on ne nous explique pas les actes qui sont réalisés sur nous. Donc en fait, on est dans une confusion totale. Quand on a mal à cause des opérations, c'est pas vraiment que c'est à cause des opérations, on se dit que c'est normal et que ça va passer. Il y a des opérations qui marchent pas, évidemment, parce que pratiquer des vaginoplasties sur des petites filles de 3 ans, de 6 ans, évidemment que ça va pas marcher, qu'il faudra être, que ce soit répété. Les médecins font croire qu'il y a un petit acte qui va tout régler à la naissance, etc. C'est pas vrai, en fait. Ça n'arrive jamais. Le corps, s'il a décidé d'être intersexe, il va rester intersexe et il va se développer comme un corps intersexe. Donc à la puberté, à l'adolescence, les manifestations intersexes, les variations intersexes vont ressurgir, donc il faudra d'autres opérations qui vont marcher dans une certaine mesure, mais s'il n'y a pas à côté des dilatations ou des... ou je sais pas quoi, différents exercices quotidiens à faire, si on en oublie pendant une semaine, et ben va falloir le refaire, repasser par une opération, etc. Enfin, c'est vraiment une tentative totale de nous effacer et de nous rectifier, qui est permanente en fait, et qui nous poursuit tout le temps, et on vit dans la peur que le médecin découvre qu'on n'a pas été assez rectifié, qu'on n'est pas assez normal à leurs yeux, et que du coup ils voudront encore nous opérer, etc. On vit dans cette peur-là. Moi, quand j'allais à l'hôpital, je me demandais, est-ce que cette fois je serais assez correcte pour le médecin pour qu'il me touche pas, quoi. C'était à ce niveau-là, tu vois. Alors, est-ce que cette fois, je suis OK? Limite, est-ce que j'ai été sage, quoi? Il y a un peu de ça, tu vois. Est-ce que je vais être punie, finalement, d'être comme je suis? Est-ce que cette fois, ça va arriver? Voilà, et même les tentatives de vérification, moi, j'espérais que ça passe très vite. J'avais des petites récompenses à la fin, donc je devenais très capricieux, parce qu'une fois que j'avais passé un examen, ce qui était assez régulier, c'était tous les 3 mois, tous les 6 mois, j'avais des examens à l'hôpital, bah j'avais une récompense après. Donc, comme on était pauvres, c'était un carambar, quoi. Mais, et du coup, bah, si j'avais pas ma récompense, je pétais un câble. Et puis après, il me fallait des récompenses pour tout. Et j'étais complètement perturbée, en fait. T'es récompensée d'avoir été violée. Enfin, c'est n'importe quoi, tu vois. Et c'est maintenant que je peux le formuler. Ça fait peut-être, c'est même plus récent que je puisse formuler ça que mon activisme. Mon activisme, il a commencé, je pense, avant ma conscience, la propre conscience de mon vécu, des impacts qu'il a eu, etc. C'est relativement récent, ça. Et les souvenirs les plus crus que j'ai, effectivement, en fait, dans ma petite enfance, les souvenirs que j'ai, c'est la répétition. C'est le fait que régulièrement, fallait que ça se produise. Régulièrement, j'avais le jour d'école loupé. Régulièrement, j'avais ensuite la convalescence après certaines opérations ou voilà, ou après je devais aller voir le psy. Ou régulièrement, je me préparais, j'avais mon petit pyjama, mon petit lecteur vidéo, mon petit doudou pour aller à l'hôpital. Régulièrement, je revoyais les mêmes infirmières et tout. Ce sentiment que c'était quand même tout le temps un peu là, quoi. Et que même si j'y étais pas à l'hôpital, j'en rêvais très régulièrement. Je faisais notamment ce rêve, et que je fais encore très souvent, que je suis sur une table d'opération et que je suis attachée. Les médecins m'ouvrent justement pour changer mes organes de place. Voilà, c'est ça l'idée, c'est changer mes organes de place. Et en fait, sans faire exprès, ils font tomber des sortes d'énormes sangsues dans mon corps, et ils le referment après. Et du coup, moi, j'essaye de crier en leur disant « Mais non, mais attention, vous avez laissé tomber des sangsues, les gars, là !» Et ils m'entendent pas, parce que je suis anesthésiée, et qu'en plus, j'ai un baillon sur la bouche, donc en fait, je crie, mais je suis le seul à m'entendre crier, et du coup, ils me recousent, et peu à peu, je vois mon corps qui devient vert, puis bleu, puis violet, enfin comme quand on a un gros hématome, et comme quand on pourrit, en fait, finalement, et que je suis en train de pourrir. Et ça, ce rêve, je le fais extrêmement régulièrement, qu'on met des choses dans mon corps. Et il y a un autre rêve que je faisais tout le temps quand j'étais petit, c'était que mon sexe tombait, et qui était coupé par je sais pas quoi, ou qu'au cours de la nuit, il tombait et qu'il se nécrosait, ou je sais plus quoi. Et j'avais souvent cette idée, je me rappelle pas très bien, mais on me l'a beaucoup rapporté, que quand j'étais assez jeune, on me disait, que je disais tout le temps, d'une part, que j'avais un fantôme d'enfant dans mon corps, et que les médecins l'avaient gardé, qu'il était à l'hôpital, que c'était les médecins qui l'avaient gardé. Donc c'est quand même assez... Ça, je disais ça vers 4-5 ans, quoi, en maternelle, donc voilà. Et d'autre part, que je demandais quand est-ce que mon zizi allait repousser. Ça, je le disais très régulièrement autour de moi, et jusqu'à assez tard, et je demandais, est-ce que mon zizi va repousser? J'étais convaincue, en fait, qu'il allait repousser, par contre. C'était pas une inquiétude, c'était quand est-ce que ça allait se produire. Donc j'avais quand même pas très conscience, finalement, en fait, du côté irréversible de ce qu'on me faisait, du côté conséquence à vie. Et c'est trop tard, là, ça y est, les médecins, ils ont fait leur travail.
tu n'en reviendras pas de ça. Et ça, c'est l'espèce de naïveté optimiste de l'enfance qui fait qu'on se rend pas du tout compte de ce qu'on nous a fait, et que c'est à l'adolescence et voire à l'âge adulte qu'on va capter tout ça. Et le plus, là où j'ai vraiment compris que je vivais des violences sexuelles et des violences médicales, c'est, comme je le disais, en Lituanie, en fait, j'avais des douleurs au ventre, au bas-ventre. Et du coup, ça commençait à durer, quoi. Donc, moi, je suis pas très hôpital, mais j'avais un peu la trouille. J'étais sans ma famille. Hein. C'était pas avec ma mère ou mes frères et sœurs ou quoi. C'était une famille éloignée qui m'avait pris en charge à ce moment-là parce que ma mère pouvait pas. Et du coup, je suis allée à l'hôpital. Et là, le médecin me dit, bon, bah, on va voir si c'est pas un truc lié aux organes génitaux, quoi. C'est pas une infection urinaire ou je sais pas quoi. Donc là, déjà, je stresse parce que, effectivement, contrairement à d'autres personnes, moi, j'ai une variation qui est visible, qui est apparente. Donc, j'avais un peu... Enfin, je savais très bien comment ça allait finir, déjà. Et là, le médecin me regarde avec une sorte de fascination très morbide, finalement, en disant « Oh là là, mais c'est tellement rare de voir ça. Bon, bah écoutez, moi, je peux pas vous aider, donc je vais vous transférer au grand hôpital public de la ville, quoi. » J'étais à Vilnius, la capitale de la Lituanie. Et il me transfère, à ce grand hôpital en ambulance, alors que je pouvais parfaitement marcher et que j'avais jamais demandé à cet hôpital, mais il insistait tellement. Et donc là-bas, je me fais prendre en charge par une équipe qui a été extrêmement violente. J'irai pas dans les détails parce que très franchement, c'est vraiment hardcore, mais ils m'ont attaché, ils m'ont ausculté contre mon gré, ils m'ont déshabillé de force, ils m'ont fait passer des examens, ils m'ont fait croire que j'avais et tout ça, je le comprenais pas, j'avais une pote à moi qui devait traduire à chaque fois parce qu'elle comprenait le russe et pas moi et il parlait pas anglais ni français évidemment. Et du coup, à chaque fois, elle me traduisait. Donc, ça... imaginez la scène, il y a un médecin devant moi, moi, je suis en face, et il parle, il m'explique que je suis très malade, que c'est très grave, qu'il va devoir me garder. Ma pote à côté qui traduit, et que moi, je regarde avec angoisse. Donc, ils m'ont fait croire que j'avais un cancer. Ils m'ont dit, oh oui, on a trouvé des métastases. Je me rappelle très bien de... En Lituanie, ça se dit métastasis, en lituanien. Donc, je me rappelle très bien de cette phrase, ce mot qui revenait beaucoup. Et du coup, ils m'ont fait passer, ouais, je sais pas, peut-être 15 examens, quoi. Des examens des organes génitaux, des examens aussi avec des radios, avec des échographies, avec tout un tas de trucs. Et je me souviens qu'au début, quand je suis arrivée, ils ont voulu me déshabiller, m'attacher, regarder et m'enfoncer des trucs, je sais pas quoi. Et du coup, j'ai dit non. Et sur le coup, ils ont dit ok. Après, ils m'ont fait passer des examens. Ensuite, j'ai attendu. Ensuite, ils m'ont fait repasser exactement les mêmes examens. Donc, je sais pas pourquoi. Et à chaque fois, ils faisaient venir plus de monde. Donc, ils faisaient venir leurs internes. Ils faisaient venir des infirmiers. Voilà, des collègues à eux. Genre, oh, Boris, t'as pas vu ce que j'ai trouvé? Un intersexe, c'est rare, non? Et c'était que ça. Ils faisaient venir de plus en plus de monde. Donc, j'étais de plus en plus observée. Et j'avais super froid. Ça, je m'en souviens que je tremblais de froid. Je pense que je tremblais un peu de stress aussi. Parce que c'était vraiment d'une violence innommable, sachant que j'étais en plus pas dans un pays, pas avec ma famille, j'étais tout seul, quoi, avec ma pote, heureusement. Et voilà, donc du coup, ils m'ont refait passer ces examens, et à la fin, ils m'ont réattaché sur une sorte de table, c'est les tables de gynécologie, en fait, finalement, et en me disant, et en me posant plein de questions, genre, est-ce que vous pouvez faire l'amour, est-ce que tu le sens, est-ce que si on touche, ça te fait quelque chose, des trucs comme ça, et du coup, j'étais attachée, encore une fois, enfin, c'était très violent, et ils disaient qu'ils m'attachaient pour ma sécurité, pour éviter que je bouge pendant qu'ils m'auscultaient. Et donc moi je n'ai pas su ce qu'ils m'ont fait réellement parce que ils avaient des petits outils sur la table et je pense que très honnêtement ma mémoire a essayé d'éjecter un peu certains trucs mais je sais que voilà il y avait des outils qui étaient directement en contact avec mon intimité quoi avec mon corps. Ensuite, ils ont voulu me garder pour découvrir ce que j'avais. Et moi, j'étais épuisée, terrorisée, bourrée de médocs et tout. Donc, j'ai dit que non, je voulais pas rester. Et mon ami m'a dit non, tu restes pas. On a fini par partir, mais ils ont insisté pour que je sois encore sous médicaments. Et je disais non, j'ai pas envie. Et je me rappelle très bien de cette scène où j'étais devant le médecin. Il m'a dit bon bah on vous fait la piqûre, mais je vous préviens que si vous arrive un truc, nous on vous prendra plus en charge parce que c'est vous qui avez décidé de pas être soigné et de repartir. Donc, tant pis pour vous si vous mourrez. Et il a fait venir une infirmière, une énorme bonne femme, super impressionnante pour la toute petite crevette que j'étais. Et je lui disais, non, j'ai eu plein de doliprane, j'ai eu plein de médicaments, c'est bon, j'ai plus mal, ça va. Et elle m'a pris de force, elle m'a plaqué sur une table, elle m'a baissé le pantalon, elle m'a foutu une piqûre dans le cul. Et après, je voyais flou, j'étais super mal et tout ça. Et j'ai fait un malaise dans le bus en rentrant, parce qu'ils m'ont laissé rentrer en bus alors que j'étais super loin, enfin, ils en avaient rien à foutre. Et c'est un monsieur carrément, un monsieur que je connaissais pas, quoi, qui m'a porté jusqu'à l'endroit où je vivais avec mon ami, dans l'immeuble où je vivais. Et après, j'ai dû retourner à l'hôpital parce que les douleurs revenaient, etc. Et que je voulais juste savoir si on pouvait me faire une radio, parce que j'étais encore complètement obsédée par cette histoire de cancer. Ou comme je savais pas vraiment ce qu'on m'avait fait quand j'étais petit, et qu'il y avait quand même ce spectre du cancer qui était venu. Et il faut savoir aussi que j'ai eu un fibrome au poumon, donc c'est une petite tumeur au poumon quand j'étais petit. Donc j'avais déjà quand même ce parcours de « t'as été très malade ». Et j'avais très peur de ça, donc j'y suis retournée. Ça a été la pire erreur que j'ai faite, parce que là, du coup, ils m'ont opéré. En me disant « bon, je pense que vous avez des cellules, je sais plus quoi ce qu'ils m'ont dit ». Comme à chaque fois, c'était traduit du russe à l'anglais, puis de l'anglais à moi, j'avais énormément de mal à comprendre. Peut-être que j'ai oublié aussi, mais je sais qu'il y avait une histoire de cellules, de problèmes comme ça. Et je leur ai demandé une échographie, ils m'ont dit « oui, mais on est obligé d'opérer pour bien voir ». Du coup, ils m'ont opéré. Plutôt que de regarder ou de s'assurer que tout était en place ou d'enlever un truc, ils m'ont carrément rebidouillé, quoi. Ils ont fait du travail en plus, pas dire bâclé, mais c'était pas très propre, quoi, ce qu'ils ont fait. Donc j'ai beaucoup d'infections après, j'étais très très malade, j'étais très très fatiguée, puis surtout j'étais complètement traumatisée, je pense, de toute évidence. Du coup, je sortais plus après, j'étais encore une fois loin de ma famille, et ma famille n'a jamais su que j'avais vécu ça en Lituanie. Ça fait... un an peut-être qu'ils le savent. Je pouvais pas leur dire, j'arrivais pas à parler de cet hôpital, je voulais juste oublier tout ça. Et ça, c'est peut-être l'expérience de violence médicale la plus spectaculaire que j'ai vécue, on va dire. Et c'est une des plus récentes aussi, donc je me rappelle un peu mieux. Voilà, c'est celle... c'est la première fois que je la raconte, hein. Mais voilà, c'est celle qui m'a le plus marquée, parce que c'était de façon tellement manifeste une violation de mes droits et une atteinte directe à mon intégrité physique et morale. Je parle autant de l'opération que des pratiques qu'ils ont eues avant, où ils m'ont enfoncé je sais pas combien de trucs. Où je me rappelle qu'ils avaient des trucs pour ouvrir, pour enfoncer, pour regarder avec un petit miroir, pour toucher, pour voir les nerfs. Enfin, c'était limite de la torture, en fait. Moi, je l'ai vécu comme si j'étais torturée. Comme dans les films, quoi. J'avais l'impression vraiment d'être dans un film. Et d'ailleurs, j'avais un grand imaginaire quand j'étais petite. J'aurais pu en parler tout à l'heure, mais... Et du coup, j'essayais de me dire, mais oui, c'est pour ça. C'est parce que t'es une sorte de mutant et que t'as des pouvoirs. Et que c'est pour ça qu'ils veulent t'invalider. Et que je m'étais construit tout un imaginaire de propres enfants aussi, mais extrêmement riches et extrêmement présents, qui pouvaient m'éviter de me confronter à la réalité trop frontalement. Et du coup, pareil, là, dans ce truc, je me disais, ouais, j'ai été kidnappée par le KGB, et c'est pour ça que ils veulent m'empêcher d'exister parce que je suis dangereux pour eux et tout, et ça m'a beaucoup aidée, mais bien sûr, ça a ses limites aussi, surtout quand on grandit et que ça devient intolérable le fait qu'on nous ait violés, on nous ait modifiés, on nous ait blessés pour la vie, on nous ait privés de certains organes, de la possibilité aussi de vivre sans traitement, c'est-à-dire d'être anatomiquement autonome, je dirais, avoir un corps autonome, parce qu'on nous enlève des organes qui sont utiles à notre fonctionnement. Et du coup, bah, on a des traitements hormonaux à vie après. Et voilà, tout ça, c'est que très tardivement que j'ai eu de la colère et pas seulement du choc et de la sidération, quoi. And I know she'll be the death of me, at least we'll both be numb. And she'll always get the best of me, the worst is yet to come. But at least we'll both be beautiful and stay forever young. This I know, this I know. She told me don't worry about it. She told me don't worry no more. We both know we can't go without it. She told me you'll never be in love.
Tu parlais un peu plus tôt de l'aide en psy. Avec cette enfance lourdement hospitalisée, est-ce que t'as eu un soutien psychologique? Est-ce que c'est un allié pour toi? Comment est-ce que c'est ta relation avec ça?
Faut savoir que dans les équipes pluridisciplinaires, déjà à l'hôpital, il y a des psychiatres en fait. Mais c'est des psychiatres qui encouragent les opérations et l'assignation à un sexe bien défini et le fait que l'enfant doit absolument avoir un prénom pas mixte. Enfin, c'est des trucs ridicules, quoi. Donc voilà, ils sont dans tout ce qui est processus de normalisation et d'effacement et d'invalidation et tout, les psychiatres qui font partie de ces équipes-là sont carrément des complices, hein. Donc de ce point de vue-là, j'ai pas été trop aidée. Après, j'étais un enfant extrêmement perturbé, parce que j'ai déjà à cause de ce vécu-là, mais j'ai eu un vécu relativement difficile. J'ai vécu des agressions sexuelles quand j'étais petit aussi, de la part d'un pédophile. J'avais un papa violent, j'avais des problèmes à l'école, j'avais des problèmes de comportement, j'étais malade, enfin j'étais rendue malade par tous ces traitements-là. Donc voilà, j'avais déjà j'étais un enfant
pas mal amochée, on va dire. Donc évidemment, j'ai eu des psys parce que ma mère était complètement dépassée. J'en ai eu beaucoup, donc en fait, il y en a qui ont été bien. La majorité n'ont pas été très bien. La majorité, il y en a même qui ont dit à ma mère que je pourrais jamais faire d'études, que je dépasserais jamais le collège. Il fallait faire le deuil de son enfant parce que, clairement, il allait finir en prison ou dans la rue. Il y a beaucoup de psys qui ont quand même considéré que j'étais un cas, une cause perdue. On me dirait pas hein, quand je parle comme ça, quand je formule les choses aussi clairement et tout, mais c'était un processus ça aussi de pouvoir s'exprimer, de pouvoir, voilà, moi je suis pas beaucoup allée à l'école et je venais d'un quartier où voilà, on était ni très riche, ni il y avait pas un accès à l'instruction, à la culture. J'ai vécu à Trappes, si ça parle à certains. Bon, c'est pas pour ça que je détestais mon quartier, bien au contraire, hein, j'aimais bien où je vivais. Mais voilà, j'ai eu un vécu particulièrement lourd qui faisait que forcément, un enfant comme moi... en plus, je pense que j'étais relativement fragile aussi, psychologiquement, physiquement et tout. J'avais beaucoup de mal à relationner normalement avec les autres. Comme je te l'ai dit, j'étais très colérique, j'étais très, très effrayée. J'avais énormément de terreurs nocturnes. Énormément de coliques, énormément de crises de panique, j'avais des hallucinations, j'avais des pensées délirantes, j'avais une sorte de paranoïa même quand j'étais petit. Hein. Donc ça rendait mon rapport au monde et aux gens et aux hommes beaucoup et aux médecins et, à mes profs. Enfin, voilà, tout était très très compliqué. Et juste pour finir, j'en ai eu un qui a été vraiment super avec moi et qui m'a beaucoup aidé à comprendre ce que j'avais vécu. Mais pas vraiment dans le côté médical parce que c'est très très récent que je l'aborde, mais plus côté... les violences sexuelles que j'avais pu vivre et qui m'a fait comprendre que c'était pas normal parce que j'avais pas du tout conscience que c'était anormal. Et justement, en parlant de ça, j'aimerais bien évoquer le rapport entre ces violences médicales et les violences sexuelles. Moi, j'ai été agressée quand j'avais 9 ans dans un camp de vacances par un animateur qui, pendant 2 mois, a abusé de moi et m'a fait vivre toutes sortes de choses. Il m'a droguée, il m'a manipulée, il a instauré toute une sorte de relation de dépendance affective aussi avec lui, de dépendance affective et matérielle d'ailleurs. Et j'étais complètement aspirée par lui, etc. Et je n'ai jamais dit non à ce qu'il m'a fait, j'ai jamais exprimé de consentement ou pas, parce que ça me venait même pas à l'idée de refuser. Et très honnêtement, alors c'est mon analyse, mais bon voilà, c'est quelque chose auquel j'ai beaucoup réfléchi. Quand on grandit et que des médecins ont le droit de nous toucher, de nous déshabiller, de nous prendre en photo, de nous palper, de nous opérer, de nous traiter, de nous pénétrer régulièrement et qu'on sait très bien et qu'on nous fait comprendre qu'on n'a pas le droit, que c'est normal, qu'ils ont le droit et que nous, on n'a pas le droit de dire non. En fait, on nous apprend que notre corps ne nous appartient pas. On nous apprend à nier l'idée même de consentement. On nous apprend que le consentement, ça n'existe pas en ce qui nous concerne. On sait très bien que ça existe pour les autres et que c'est censé exister. On sait très bien que normalement, les autres enfants... on leur fait pas ça. Ça, moi, en tout cas, moi, j'en avais vraiment conscience, hein, que c'était moi, c'était pas les enfants en général. Et du coup, moi, je pense que je n'ai pas eu du tout de notion de consentement. Et je pense que le consentement, déjà, la plupart des enfants ne sont pas assez bien introduits à ce concept-là. Mais disons que dans le cas des personnes intersexes, très tôt, en fait, on vit, on sait que les adultes ont le droit de nous toucher et de faire tout ce qu'ils veulent parce que c'est des adultes. Et que nous, on a un corps tellement bizarre que c'est un peu mérité, quoi. Cet homme-là, cet animateur qui m'a agressé et tout ça, lui, ce qui l'attirait, justement, c'était ce côté un peu anormal, parce qu'il avait l'impression de voir un ange, en fait. Que, voilà, j'en parlerai aussi du fantasme de l'hermaphrodite. Je fais des guillemets, on les voit pas dans le micro, mais je fais des gros guillemets. Hermaphrodite, c'est un terme que les personnes intersexes n'aiment pas du tout, parce qu'il est hyper fétichisant et qu'en plus, dans le genre humain, il est fort probable que ça n'existe pas du tout. Donc voilà, c'est un terme qu'on n'aime pas beaucoup, parce qu'il renvoie tout à un imaginaire hyper fantasmant, ouais, cette espèce de figure chimère, divine, statue grecque, qu'on n'aime pas trop.
Glamourisé.
Ouais, complètement exotisé, glamourisé, un truc qui n'est pas du tout humain, finalement, qui est très déshumanisant. J'avais pleine conscience que ce type-là, qui était un pédophile, en fait, était attiré par ça. Et puisque les médecins aussi étaient concentrés sur ça, je me disais, bon, bah moi, un corps comme le mien, c'est probablement que c'est normal, en fait, que les adultes veuillent le toucher ou en faire quoi que ce soit. Et ça me venait pas à l'esprit de... Enfin, je sais pas comment vous dire ça, mais je me suis jamais posé la question de savoir si je pouvais refuser. Ça me venait pas à l'idée de me dire, j'ai le droit ou je peux ou je dire non, quoi. Juste ça me venait pas à l'esprit. Je me disais, bon, bah, c'est ce qui doit arriver. S'il le fait, c'est qu'il y a une raison. Et puis après, bah, j'ai essayé de l'aimer très fort et de le voir comme une figure paternelle pour me dire, bon, bah, il y a ça, mais peut-être que je peux y trouver mon compte aussi. Et c'est à partir de là que ça déconne, quoi. Si la victime commence à s'attacher, et j'étais vraiment accro à ce gars, il avait tout fait pour être tout le temps présent autour de moi. Et du coup, forcément, ça m'a
aussi beaucoup affectée. J'étais complètement perturbée après. Je dis pas seulement que j'étais traumatisée ou triste ou blessée ou effrayée. J'étais perturbée, c'est-à-dire que j'avais un rapport à la sexualité, au corps, aux adultes, complètement déréglé, complètement anormal. J'étais du coup, il y avait des enfants qui me trouvaient dégoûtant, qui voulaient plus jouer avec moi, ou il y avait des parents qui voulaient pas que je joue avec leurs enfants. Ça m'est beaucoup arrivé parce que j'étais perturbée. Je faisais n'importe quoi. J'étais je sais pas comment dire. J'étais un peu désaxée, quoi. Je pense que j'étais pour le coup psychiquement très très instable, et forcément dans ce cadre-là j'ai dû voir beaucoup de psy aussi, parce que parfois c'était ordonné carrément par les profs, hein, sinon ou par des médecins qui constataient bien que j'étais pas normale, quoi. J'étais jusqu'à demander quand je voyais qu'un adulte était triste ou en colère par exemple, bah je lui proposais des services sexuels, mais à genre 9 ans 9 10 ans, quoi. Donc normalement les adultes ils se disent il y a un problème. Donc il y en avait certains qui me trouvaient juste dégueu et qui voulaient pas que j'approche leur gosse ou que je sois pas dans leur classe. Et il y en a d'autres qui heureusement ont eu la bonne initiative de se dire bon bah si un enfant il parle comme ça c'est pas normal et on va le faire voir des professionnels. Et il y en a un justement comme je te disais qui m'a aidé beaucoup à comprendre ça, à gérer les crises. Je fais des grosses crises de nerfs très spectaculaires et il m'a aidé un petit peu à comprendre ça et tout ça, et lui a été super.
Dans tout ça, est-ce que tu avais aussi des confidents ou des amis comme ta sœur par exemple?
Ma sœur, on n'en parlait pas, mais en fait, ma sœur, elle m'accompagnait physiquement. Et comme je te disais, c'est quelqu'un qui a une sorte de... Vous savez, ces personnes qui ont une sorte de joie de vivre naturelle, et du coup, ils illuminent un peu tout autour d'eux, et tout devient un peu plus chaleureux, un peu plus joyeux et tout. Ma sœur est comme ça. Donc c'est vrai que les séjours à l'hôpital étaient plus légers et moins lourds, quoi, ouais, moins lourds avec elle... Et ça fait pas si longtemps en fait que je m'en rappelle, donc c'est touchant en fait de m'en souvenir, parce que c'est des souvenirs qu'on a tellement pas envie de repenser, et du coup même les trucs un peu cool on les enfouit aussi. Mais ouais, elle demandait à être dans ma chambre, donc elle avait un lit d'appoint et elle râlait tout le temps, mais je savais qu'elle aurait fait tout pour être là quand même. Voilà, elle parlait beaucoup aux infirmières parce qu'elle a une sociabilité, enfin une facilité à sociabiliser avec les gens qui est extraordinaire. Voilà, et je me rappelle d'une scène, j'en ai parlé sur Twitter il y a pas longtemps, mais à un moment je devais aller au bloc et il m'avait donné, vous savez, je sais pas si vous avez été opéré, mais en tout cas avant les opérations on a parfois des tranquillisants qui nous mettent un masque sur le visage ou ils nous tranquillisent, donc pour nous préparer à y aller doucement et tout, parce que forcément c'est très stressant. Et malgré ça en fait j'étais extrêmement terrorisée. Et du coup, j'avais des spasmes carrément de terreur, quoi. Donc, je tressautais dans mon chariot, dans mon espèce de brancard, là. Et du coup, l'infirmier, qui était pas du tout précautionné, pas du tout doux, m'a enroulé hyper serré dans un drap pour faire une sorte de chrysalide de drap, là, pour que je puisse pas du tout bouger. Et normalement, bah, je voulais un câlin avant d'aller au bloc, quand même. Et donc, et il voulait vraiment partir. Il était pressé parce qu'on était en retard, déjà. Et ma sœur a attrapé le chariot. Et il a dit non, mais on n'a plus le temps. Et j'arrivais pas à lui dire, mais je veux un câlin. J'arrivais pas à parler. J'étais tellement sous pression que j'étais incapable de formuler quoi que ce soit. Et elle l'a regardé, elle a fait, monsieur, je ne partirai pas avant de lui avoir fait un câlin. Non, je ne lâcherai pas ce chariot avant de lui avoir fait un câlin. Et elle tenait le chariot comme ça. Il a fait, bon, bah d'accord, nana. Et là, elle s'est penchée vers moi. Elle m'a dit, oh là, t'as trop de la chance. Tu vas être conduit par un pirate. Parce qu'en fait, il avait un bandana, les bandanas d'infirmier, là, avec des têtes de mort. Et ça m'a vachement aidée, en fait. Je me disais, ah ouais, c'est un pirate. Non, alors qu'il était vraiment pas gentil. Il était pas gentil, mais c'était un pirate. Donc ça devenait logique, finalement. Et elle savait, en fait, comment m'atteindre. La seule moyen de m'atteindre et de me soulager, c'était l'imaginaire. C'était de me faire croire que c'était pas si dur et c'était pas si bête, en fait, ce que je vivais. Parce que c'est bête, en fait, la façon dont on traite les intersexes. C'est bête, c'est stupide, c'est absurde. Et même en tant qu'enfant, les enfants sont plus intelligents que les adultes, hein. Ils ont vraiment conscience que c'est débile, qu'il y a quelque chose de vide là-dedans. Et fallait donner du sens à ça. C'était obligatoire de donner du sens à ça. Parce que sinon, je l'aurais pas supporté. Mon cerveau, ma psyché, elle se serait détruite, elle se serait brisée en mille morceaux. Il fallait que je croie qu'il y ait du sens à ça. Et même si, au fond de nous, ma sœur n'y croyait pas, et moi, j'y croyais pas tout au fond. Mais on fait semblant et on finit par croire à nos propres histoires. Et donc, ça, bah, j'ai cessé d'avoir d'espace parce que j'étais transportée par un pirate. Et après, il m'a emmenée dans l'ascenseur et je me souviens qu'il m'a dit « Alors, t'as peur ?» Et j'ai dit « Oui ». Et il m'a dit « Bah, t'as l'habitude maintenant ». Mais ma sœur, ouais, c'était mon alliée, c'était pas ma confidente, c'était mon alliée. Et comme je le dis, le fait que ma famille m'ait laissé explorer mon genre et changer de genre comme je voulais, et j'étais clairement un enfant non-binaire. Je sais pas si vous, je pense que vous êtes introduit à la notion de non-binarité, hein. Le fait, en tout cas, j'étais vraiment ni garçon ni fille, et j'avais cette sorte de liberté totale dans ma tête, où je me sentais pas du tout atteint par ces concepts, en fait. ce qui est une chance pour moi en tout cas. C'était une grande chance d'avoir pu avoir cette espèce d'indépendance de représentation, cette indépendance de vision du monde où j'avais l'impression que j'avais pas besoin. C'était les médecins qui avaient besoin, c'était pas moi. C'était les médecins qui voulaient ça. Même ma mère, elle en avait pas besoin. C'était visiblement la société, elle avait besoin de ça. Moi, dans ma tête, j'étais libre. Et ça, pour moi, ça m'a beaucoup sauvée aussi. Des confidents, j'en ai eu plus tard, mais très très tard. Et en fait, j'en ai eu... Mes amis, je leur ai jamais parlé de ça. Non, en fait, j'en ai pas vraiment eu des confidents. J'ai des gens à qui j'ai pu en parler du fait que je suis intersexe, mais j'ai jamais parlé de ces choses-là. À part à des personnes intersexes, et encore, c'est très très récent. Ça fait quelques mois, quoi. J'étais plutôt seule là-dedans, quand même.
Et en fait, je me demandais quand est-ce que tu t'es vraiment engagée pour la cause intersexe. Parce qu'en fait, t'as parlé de ton enfance, et il y a toi maintenant, et entre-temps, comment ça s'est fait?
Alors, déjà, je vais parler de l'adolescence, du coup. Donc, l'anecdote que je vous ai racontée sur la Lituanie, c'était préadolescence, je dirais. Ensuite, j'ai été en famille d'accueil, et là, j'ai commencé à pouvoir un peu en parler avec la fille du couple qui m'avait accueillie, et qui a été très, très bénéfique à ma reconstruction un peu, parce qu'elle m'a beaucoup aimée, beaucoup aidée, beaucoup accompagnée, et surtout énormément d'amour, et je pense que, comme tout enfant, j'en avais vraiment besoin. Et elle m'a remis un peu les idées en place aussi, en m'expliquant justement la notion de consentement, ce que c'était la sexualité, ce que c'était un adulte, un enfant, tout ça. Et ça a été... Et j'étais à la fois très mature en termes de débrouillardise et de rapport aux adultes, et très, très... très très vénère déjà, très colérique et très turbulent et très insolent. J'avais pas peur des adultes, j'avais très peur des adultes en vrai, mais je voulais pas le montrer, quoi. C'était ils devaient savoir que moi je savais à quel point ils étaient corrompus et mauvais. Et du coup les adultes m'aimaient pas trop parce que j'étais toujours très violent et très je les provoquais beaucoup. Et elle s'est jamais laissée avoir par ce côté-là, alors que j'étais vraiment super dure. Je faisais des fugues, j'ai un passé de consommateur aussi, donc moi j'ai commencé la drogue à 13 ans. Drogue dure, hein. C'était pas juste un petit joint de temps en temps. Donc, et à la fois, comme je disais, j'étais à la fois ce côté très adulte, très grand. Je voulais faire le grand. Et à la fois, j'étais émotionnellement, je pense que j'étais vraiment très très jeune et que j'étais plus jeune que mes camarades et que j'étais facilement perturbée par certaines choses, que je faisais encore beaucoup de crises, que j'avais énormément de mal à être tout seul. Donc en fait, dans ma famille d'accueil, pendant 2 ans, j'étais jamais tout seul. Il y avait quelqu'un pour faire pipi avec moi, il y avait quelqu'un pour prendre ma douche avec moi, il y avait quelqu'un le matin, il y avait quelqu'un le soir, il y avait quelqu'un à tous les moments, je dormais jamais tout seul, enfin voilà. Et à partir du moment où j'ai pu me reposer dans cette famille d'accueil, je pense qu'il y a tous les traumas, du coup, qui... Comme j'avais plus besoin de survivre, puisqu'avant j'étais en mode survie, je devais aller à l'étranger, j'essayais de trouver comment trouver ma petite drogue, comment pas être trop chez moi parce que ça se passait pas bien du tout. Et puis là, quand j'étais dans cette famille d'accueil, c'était un cocon. Il m'avait fait ma chambre, j'avais eu un petit chat. J'étais d'un seul coup, c'était une douceur telle que j'avais jamais vécue. Et du coup, paf quoi, tout m'est retombé dessus. Et j'ai commencé à être très dur à vivre, à avoir plein de peurs, plein de petites peurs, ouais, comme ça, d'être tout seul, de sortir, d'être en contact avec les autres. Donc c'était très difficile de prendre les transports. Et ça allait toujours. Hein. Voilà, tous les petits traumas en fait qui font que du PTSD finalement, du stress post-traumatique qui se manifestait de plus en plus et qui devenait vraiment très très envahissant dans ma vie. Et heureusement, j'étais aimée et aidée, mais en même temps, je devenais fragile et ça, j'arrivais pas à l'accepter, je comprenais pas pourquoi d'un seul coup je devenais si fragile. Donc je dirais que c'était une période positive de ma vie, mais en même temps où tout s'est un peu fissuré, le côté carapace comme ça, ça a été très compliqué. Don't you dare calling us. Après, j'ai dû partir de cette famille et retourner chez ma mère. Et à partir de là, c'était « j'en parle plus ». Plus personne ne doit savoir. Je n'aurai jamais de copain ou de copine. Je n'irai plus jamais voir un médecin. Je parle plus à ma mère. Je parle plus à mes frères et sœurs. Je parle à personne de ça. Ça doit personne ne doit le savoir. Et j'engueulais les gens qui le savaient en leur disant, si t'en parles à quelqu'un, je te tue, je sais pas quoi. Enfin, c'était le tabou total. Et j'ai un peu parlé de l'invalidation, mais j'insiste sur le tabou aussi. C'est quelque chose qui nous a inculqué en même temps que ce discours de « vous avez pas le droit d'exister ». On comprend bien qu'on doit se taire. On nous dit « il faut pas en parler à vos copains ». Il faut pas en parler à vos partenaires sexuels quand vous en aurez. Vos parents savent, mais il vaut mieux éviter de le dire à l'entourage. On dit aux parents de pas en parler aussi, parce que c'est un tabou. C'est un tabou monstrueux, l'intersexuation. C'est le genre et le sexe, c'est quelque chose qui, j'ai l'impression, réveille des choses intimes chez les gens. Qui peuvent, on dirait que ça peut faire foutre en l'air la société dès qu'on les remet en cause, quoi. Et du coup, c'est un énorme tabou et on grandit avec ça. On grandit dans l'idée que nos existences sociales, elles n'ont aucune résonance, en fait. On n'a aucune reconnaissance sociale. On n'a pas le droit d'exister. J'ai insisté là-dessus, mais c'est, faut comprendre à quel point ça nous imprègne, quoi. On sait que, on est des sortes d'aliens et qu'il va falloir se cacher pour survivre. C'est, voilà, comme les X-Men, quoi. C'est, alors encore l'imaginaire qui m'a beaucoup aidé parce que ça faisait vachement écho en moi, en fait, ces histoires de, t'es un mutant, mais faut te cacher parce que sinon, tu vas te faire torturer. C'était la vérité pour nous. Tu vas te faire invalider, tu vas te faire rejeter. Ça m'est déjà arrivé, hein, de me faire rejeter par des potes ou des partenaires, même si j'en ai eu très peu, du coup, à cause de cette méfiance générale. Il y avait un tabou phénoménal à parler de ça et pendant quelques années, j'ai plus du tout pu en parler. Et il y a eu un événement qui a fait qu'au bout d'un moment, j'en pouvais plus. C'est que... Donc moi, j'ai effectivement une variation qui est assez apparente et qui fait que mes taux hormonaux ne me permettront jamais de ressembler totalement à une fille classique ou à un garçon classique, si on peut dire. J'aime pas ces termes, mais voilà, faut que ce soit clair quand même. Je peux prendre toutes les hormones que je veux, mon corps, il les traite pas correctement, donc je pourrais jamais faire, par exemple, une transition de genre ou quoi, complète, quoi, ce sera pas possible. Donc c'est vrai que j'ai souvent des remarques, en fait. Dans les milieux queer, etc., ça va, c'est plutôt safe. Et encore, parce qu'en tant qu'intersexe, on est vraiment safe nulle part. Mais par exemple, dans le cadre du milieu professionnel, des études, etc., ça a toujours été super compliqué. J'avais toujours des remarques et tout. Et comme je suis d'un tempérament assez survolté, il suffit d'un truc et j'en ai marre et je pars au quart de tour, quoi. Et pourtant, j'encaisse pas mal, je trouve. Mais en l'occurrence, là, je voulais faire du bénévolat à la Croix-Rouge. Bon, moi, j'ai tendance à penser, tu veux faire du bénévolat, on va t'accepter un peu partout, quoi. Et du coup, j'ai dû passer un examen quand même avec une sorte de directeur de la structure où je voulais être, qui était un médecin, comme par hasard. Voilà. Et moi, je me disais, bon, bah c'est pas plus mal qu'il fasse passer des entretiens, ça s'assure que les gens ont des bonnes intentions, qu'ils savent dans quoi ils s'embarquent et tout. Et il me regarde, il me fait, oh, mais quand même, je trouve que vous avez un aspect particulier, vous faites très très jeune, Je fais oui, bah c'est vrai que j'ai un déficit hormonal. Voilà, j'ai un déficit hormonal. Je vais direct dans la pathologie, comme ça il me laisse tranquille parce que on touche pas aux malades, quoi. On va pas les embêter. Mais si, en fait, parce que comme c'est un médecin, il a le droit. Et ça a été ses mots. C'est-à-dire, je lui ai dit, j'aimerais pas en dire plus parce que c'est privé. Donc il a dit, ok, il a continué l'entretien. Et à la fin, il referme son dossier. Il me dit, non mais allez, dites-moi quand même, je suis médecin. Vous savez, je suis médecin. Moi, je sais, je connais. Je suis médecin. Et je sais pas combien de fois il a répété ça. Comme si, dans mon cas, ça allait être un argument en sa faveur. Tu vois, le mec avait rien compris déjà. Et du coup, j'ai fini par lui dire, bah oui, je suis une personne intersexe. C'est ce qu'on appelait avoir hermaphrodite. Alors là, c'est l'erreur de base de débutant, parce que je n'étais pas militant à l'époque. Donc je disais souvent, c'est ce qu'on appelait avoir hermaphrodite, parce que je savais que les gens visualisaient plus. Le problème, c'est qu'ils visualisent un peu trop, et un peu trop selon leur propre représentation fantasmagorique, et pas du tout dans la réalité. Et là, il a dit un truc du genre, oh là là, mais c'est dingue, c'est tellement rare, on en voit peu des gens comme vous... Et je crois même que c'est peut-être lui qui a utilisé le mot hermaphrodite en premier, maintenant que je m'en souviens. Et c'est vrai que ça m'était arrivé un certain nombre de fois, dans des entretiens d'embauche, dans des trucs où en fait je me sentais obligée de me justifier de mon apparence, quoi. J'étais obligée de dire oui, je sais que je suis pas normale, mais j'ai une excuse, quoi. Et c'est parce que je suis malade et que j'ai une condition chelou et que je suis un drôle de truc, quoi. Donc j'essaie de le faire beaucoup moins maintenant. Mais en l'occurrence, je suis sortie et au début ça allait. Je me suis dit, oh, c'était un peu chiant quand même. Et puis plus le temps passait, plus je marchais pour aller prendre mon bus, j'étais accompagnée d'une amie, et plus en fait je me rendais compte à quel point ça me touchait. Je sais pas si vous avez déjà eu ce genre de moment où sur le moment tu dis non ça va, j'ai vécu une agression, mais on comprend pas que c'est une agression, parce que ça, y a pas eu de cri, y a pas eu de coup, mais c'est une agression quand même, parce que l'invalidation c'est une agression, la fétichisation, la stigmatisation c'est une agression. Et je suis sortie et d'un seul coup, je m'énerve, quoi. Et ça montait. Et je dis, mais non, mais c'est plus possible, en fait. Et là, je parlais et je disais, mais tu te rends compte, à chaque fois que je dois aller à l'hôpital, je dois mentir à mes amis. Plus je grandis et plus je suis en décalage avec mes copains qui sont plus normaux que moi. Et du coup, je dois trouver des excuses pour ça aussi. Quand je prends mes traitements, faut que j'ai des excuses pour ça. Quand j'ai ma piqûre qui me fait super mal et du coup, je boite, faut que je trouve des excuses pour dire... Et au bout d'un moment, ta vie, c'est plus qu'un immense mensonge. Je pouvais pas avoir de partenaire sexuel ou amoureux parce que j'avais trop peur des regards qu'on pouvait me porter. Voilà, je pouvais pas me faire soigner parce que j'avais trop peur alors que j'étais malade. Enfin, c'était dangereux au bout d'un moment. Et surtout, je vivais dans un état de mensonge, d'isolement, prisonnier de mes propres stigmates finalement. Et j'avais tellement peur de l'autre que finalement, c'était cette peur-là plus que le regard de l'autre qui était dévorante. Et à partir de là, je me suis dit, bon, bah, je pense qu'il est temps que je le dise. Et je connaissais rien à l'intersexuation, quoi. J'étais persuadée qu'il y avait des assos dans toutes les villes, voilà. Enfin, c'était très naïf. Et du coup, j'ai fait un coming out sur Facebook à ce moment-là. Et c'était il y a un an et demi. Donc c'est récent, en fait. Hein. Et j'ai dit, voilà, je suis une personne intersexe. Voilà ce que c'est une personne intersexe. C'est pas hermaphrodite. Donc déjà, j'avais les bonnes notions. C'est bon, j'ai pas dit, ouais, je suis hermaphrodite, c'est super cool. La plupart des réactions que j'ai eues, c'était des gens qui m'ont dit... bravo pour ton courage d'avoir témoigné. Enfin, bravo pour ton courage de l'avoir dit, de l'avoir annoncé. Et nous, on t'aime comme tu es, etc. Et sur le moment, je comprenais pas pourquoi aucun de ces messages me faisait plaisir. Et en fait, je me suis rendu compte que ce qui m'avait saoulé, c'est que les gens pensent qu'ils devaient me valider. Genre, t'as le droit d'être intersexe, t'inquiète pas, nous, on est super tolérants, voilà. Et qu'aucun n'avait de réaction sur le vécu médical que je dénonçais. Et j'ai mis... un an à me rendre compte. Un an, parce que c'est à l'anniversaire de ce coming out que j'ai réalisé que c'était ça qui m'avait saoulée. Et que je me disais, mais en fait, tout le monde a pris soin de me dire, t'inquiète, on t'aime comme tu es, genre drapé de leur belle noblesse, hyper tolérante. Voilà, s'il y a des potes à moi qui m'écoutent, désolé, mais voilà, faut dire les choses. Et pas du tout, genre, mais c'est terrible ce que t'as vécu et c'est pas normal, en fait. Et je sais pas comment t'as fait pour vivre tout seul avec ça pendant toutes ces années. Et voilà, ça m'a énervée, et je suis souvent énervée, mais en l'occurrence, ça m'a énervée encore plus. Et puis après, j'ai cherché des associations. Donc j'ai demandé à mon centre LGBT de ma ville s'ils avaient des personnes intersexes ou des assos intersexes, etc. Évidemment, la question intersexe était, en plus, il y a un an et demi, encore moins représentée que maintenant. Donc on n'existait pas, quoi. On n'existait pas médiatiquement, on n'existait pas dans le milieu associatif, on n'existait pas dans la communauté LGBT, on n'existait nulle part. On était complètement effacés. Ça a été très dur de me rendre compte parce que moi je pensais que c'était juste moi en fait qui ne s'était pas approché de cette communauté parce que je voulais surtout pas montrer que j'étais intersexe, je voulais rien avoir à faire avec les intersexes. Mais non, c'était pas moi, c'était aussi qu'il y a un défaut de représentation, un problème de visibilité, un problème de place. Et du coup, bah, je suis tombée de haut en fait en me rendant compte que je suis allée à la Pride de Tours qui est la ville où je vis actuellement. J'étais tout seul. Donc j'étais tout seul avec ma pancarte. Donc je me suis dit, bon, bah c'est chaud quand même, mais bon, c'est pas grave, je vais faire celle de Paris. Et donc j'ai fait la Pride de Paris et surprise, j'étais tout seul avec ma pancarte. C'est-à-dire que la Pride de l'année dernière, à cause de tous ces problèmes de visibilité, de place, d'inclusion, etc., le collectif intersexe, il avait pas eu la force d'y aller, et je les comprends aujourd'hui, maintenant je comprends dans quoi ça s'inscrit. J'étais naïf à l'époque et je pensais à trouver un cortège intersexe ou d'autres gens intersexes et tout. Bah non, j'étais tout seul. Après, il y a un camarade... qui m'a rejoint, mais je sais pas si vous imaginez, faire 4 heures de Pride avec une pancarte intersexe où t'entends tout autour de toi des gens qui te demandent « Putain, mais c'est quoi intersexe? Mais ça existe? Putain, encore une nouvelle sexualité? Oh là là, c'est quoi ça? Je sais pas combien de fois j'ai entendu « C'est quoi ça? C'est quoi ça? Ah, c'est les hermaphrodites. Ah, c'est les gens qui ont une bite et un vagin. Ah, c'est les mi-hommes, mi-femmes. » Enfin, dans la commune, hein, je veux dire. C'était pendant la Pride, tu vois. Nous aussi, c'est notre seul jour de fierté, en quelque sorte, tu vois. C'est la seule marche qu'on a. J'étais tout seul. Et en plus, je me rendais compte que dans cette communauté, j'existais pas. Et quand j'existais, j'étais autant invalidée qu'ailleurs. Et là, ça m'a énervée. Pour le coup, ça m'a vraiment énervée. Donc, je suis rentrée au collectif intersexe et allié. Et surtout, j'ai gueulé sur Twitter, qui est effectivement un réseau qui a beaucoup de défauts, mais qui a au moins la qualité d'avoir un certain nombre de militants et des discours accessibles aux jeunes militants ou aux gens qui veulent se former, s'éduquer sur des questions sociétales, d'oppression diverses, hein, racisme, sexisme et autres. À la base, j'étais venue sur Twitter pour quelque chose qui n'avait rien à voir parce que je voulais juste m'abonner à un compte qui donnait des news sur les studios Ghibli pour te dire à quel point j'étais loin du truc. Donc j'étais déjà sur Twitter, mais juste pour ça, j'avais genre 3 abonnés. Et j'ai commencé à chercher des intersexes. Il n'y en avait pas en France quasiment. Donc je me suis... Et grâce à ça, je me suis rapprochée un peu des discours intersexes et surtout de la colère intersexe finalement. Et après j'ai commencé à écrire, à gueuler quoi sur la Pride, etc. Et là j'ai gagné plein de followers d'un coup. Alors que, encore une fois, j'avais mes zéro notions politiques, mais vraiment rien, que dalle. Je savais juste que j'étais intersexe et qu'on n'était pas représentés dans la commune et que notre drapeau était jaune et violet, quoi. C'était ça, la base. Et j'ai fini par rentrer au collectif un peu plus tard, mais j'avais déjà une énorme visibilité et je pense que c'était une visibilité qui était trop grosse pour moi et que j'ai pas bien su gérer ça. Heureusement, j'ai toujours été prudent en termes d'arrogance et de je peux parler pour tout le monde et c'est moi qui porte ma cause et tout. Faut pas croire, il y a des moments où je me suis un peu sentie pousser des ailes, je pense, et que je suis allée j'ai fait un peu le petit vaniteux, mais j'ai surtout été très vite dépassée en fait par les attentes qui se cristallisaient sur moi. Beaucoup de personnes intersexes qui me contactaient pour me dire merci, est-ce que tu peux m'aider, etc. Et j'étais jeune en tant que militant, j'étais un jeune militant, voire novice quoi. Et c'est il y a eu tout un et j'ai pas su moi me déresponsabiliser en fait et dire je rappelle que je suis pas en capacité en fait que ce soit intellectuellement ou même émotionnellement en fait de vous prendre en charge. Du coup je me suis fait un peu submerger et puis après heureusement je suis assez tenace comme garçon donc j'ai vraiment voulu me former très vite, très tôt, tout comprendre, tout connaître, faire les choses bien, avoir des projets, et c'est là que j'ai créé ma petite BD. En fait je pense que mon obsession c'était qu'on parle de nous quoi. C'était, je comprenais pas pourquoi. Moi, je trouve que le vécu intersexe et la façon dont la société traite les personnes intersexes, c'est un scandale sanitaire, quoi. C'est une honte nationale, voire internationale. C'est inhumain, en fait, ce qu'on fait subir aux personnes intersexes. Et du coup, ça me paraissait complètement fou complètement absurde que personne n'en parle, qu'on n'en parle pas plus. Je comprenais pas vraiment. C'était purement naïf, en fait. Je ne comprenais pas. Et j'en voulais au monde entier. Donc je me suis dit bon bah si vous avez la flemme de vous intéresser à nous, on va faire en sorte d'avoir des ressources qu'on vous met sous le nez, que vous êtes obligé d'avoir, etc. Et le CIA avait déjà fait un taf incroyable. Il faut savoir que le collectif intersexe, je suis une des personnes intersexes en France les plus visibles et les plus connues parce qu'il y en a peu et parce qu'il y en a beaucoup surtout qui font du travail dans l'ombre, qui est aussi conséquent, voire beaucoup plus conséquent que le mien, des gens qui font depuis des années qui travaillent en termes de communication, en termes de sensibilisation, en termes de recherche aussi scientifique. Universitaire, sociologie, des gens qui font un travail de plaidoyer incroyable. Je vous en parlais tout à l'heure, mais voilà, il faut savoir qu'on rencontre l'Assemblée nationale, les ministères, les parlementaires, les députés, les commissions nationales d'éthique, la DILCRA, on passe des auditions, on fait des plaidoiries interminables pour avoir une chance et un espoir d'être inclus dans la loi et d'être protégé par la loi. On a vu que ça n'a pas été le cas dans la loi de bioéthique, puisque l'amendement qui visait à interdire les mutilations sur les enfants intersexués a été rejeté, mais on a travaillé d'arrache-pied, quoi. Et donc, moi, j'insiste quand même aussi sur le fait que oui, Micha, c'est le militant intersexe peut-être le plus en vue actuellement parmi les jeunes, notamment en France, mais qui a le collectif, c'est lui qui fait, c'est nous, c'est un nous, voilà. Moi, j'aime pas trop la personnalisation, même si j'entends que c'est plus efficace pour faire passer des messages, le témoignage, le fait d'avoir une figure, tout ça, mais il faut savoir que c'est le collectif qui fait ce travail-là et que c'est le collectif c'est grâce au collectif que je peux avoir ce discours aujourd'hui, que je suis là aujourd'hui. Et que j'ai pu m'exprimer correctement sur les questions intersexes et pouvoir faire des formations, des conférences, des tables rondes. Et aujourd'hui, je sais qu'être intersexe, c'est politique, c'est pas anatomique. Hein, voilà, c'est pas le cœur du sujet. C'est une personne qui a subi une invalidation, une oppression et des violences médicales à cause de ça. Voilà, et c'est grâce à ce travail de réflexion et d'accompagnement et de formation qui m'a été offert, finalement, que j'en suis là aujourd'hui et que je suis... Maintenant, j'arrive à me dire militant et j'arrive à me sentir légitime en tant que militant. Voilà. Ce que je veux juste pas qu'on oublie, c'est que je suis pas tout seul à travailler, parce que souvent, je vois, tu vois, dans les événements, genre l'existence inter, il y a des gens qui viennent me voir alors que je suis entourée par des gens de mon collectif et qui viennent me voir juste moi en me disant merci pour ton travail. Moi, je me sens super honteux, quoi. Je me dis, ça va pas. Donc, j'insiste là-dessus, si vous m'entendez, voilà, il y a tout le collectif derrière qui est derrière moi et on travaille tous ensemble, quoi. Et c'est mieux comme ça, en vrai.
Ça t'a fait quoi de rejoindre ce collectif, de rencontrer physiquement, personnellement, de crier avec d'autres personnes intersexes?
Je pense que pour toute personne intersexe, c'est un événement, hein, de rencontrer
un ou une semblable, parce que on n'est pas si peu, puisqu'on considère qu'il y a 1,7 de la population qui est intersexe quand même. Donc si on considère encore une fois tout le panel de variations, et il y a un certain nombre de personnes qui ne savent pas qu'ils sont intersexes, puisque les médecins n'utilisent pas le mot intersexe. Donc moi j'ai découvert que j'étais intersexe à travers un documentaire, hein, pour vous dire, on n'a jamais utilisé le mot intersexe pour me définir. C'est un mot, encore une fois, qui est politique avant tout, et les médecins n'ont pas trop d'intérêt à l'utiliser. Ils préfèrent classifier en termes de tel syndrome, telle maladie, telle anomalie, comme ça, ça nous divise, ça nous isole, et on n'a aucune idée qu'il y a une identité parapluie qui englobe tout ça, et qu'on peut se retrouver, se battre, se reconnaître, s'instruire sur nos propres réalités aussi. Voilà. Donc, la première fois que j'ai rencontré une personne intersexe, j'étais complètement excitée, et un peu trop, je pense que j'ai fait un peu peur, mais c'était un événement, et puis à la fois on sait qu'on est là, à la fois on sait qu'on existe, qu'il y a forcément des personnes intersexes autour de nous, et à la fois quand on en rencontre un, on a l'impression que c'est un autre alien, quoi. Moi j'ai vraiment cette sensation-là que je viens d'une autre planète, quoi, et que je sais qu'il y a d'autres gens de ma planète disséminés dans la population, mais que j'ai pas forcément le moyen de les reconnaître, et heureusement il y en a qui me le disent, et là on peut se rencontrer. Bah, toutes les personnes très 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 minoritaires le savent, hein, quand on rencontre quelqu'un qui nous ressemble, qui a en plus un vécu commun, c'est vrai que moi j'ai tendance à me rapprocher plus des personnes intersexes qui ont un vécu qui ressemble au mien, en général un peu lourd, du coup c'est pas un critère, je vais pas dire non t'as pas vécu d'opération, tant pis t'es pas mon ami, mais c'est vrai que forcément de savoir qu'il y a d'autres gens qui ont vécu ça, c'est tellement un vécu qui n'est pas visibilisé, qui n'est pas entendu. J'ai jamais entendu quelqu'un parler de ça à la radio, ou à la télé, ou dans un journal, ou j'ai jamais su que ça existait. Je pensais vraiment que j'étais tout seul. Donc forcément, la première fois que tu rencontres quelqu'un qui a connu les mêmes médecins, parfois même qui a été dans le même hôpital, d'un seul coup, c'est réel. Donc il y a plusieurs phases, en fait. Au début, t'es très content. Et puis après, moi, par exemple, j'ai eu une phase de rejet, où c'était trop, finalement, d'être intersexe. C'était trop lourd à porter pour moi. C'était pas possible, en plus, politiquement. En plus, j'étais déjà super visible et tout. C'était trop gros pour moi. Je voulais plus être trop proche des personnes intersexes, parce que déjà, elles souffrent beaucoup. Faut le rappeler, là, j'en parle avec pas mal d'aisance et même d'humour et tout, mais faut voir comment je serai à la sortie de ce podcast, hein, je sais pas encore. Mais c'est quand même des vécus qui sont vachement graves, quoi. Donc c'est vrai que des fois, on n'a pas forcément la force de se porter les uns les autres, et en même temps, on a un besoin, mais urgent, de parler, en fait, et d'entendre même. Moi, ça me fait beaucoup de bien d'entendre des personnes intersexes, alors ça peut paraître bizarre comme phrase, mais qui ont vécu des violences comme les miennes, parce que je me dis, bah, c'était pas que moi, et du coup, ça existe, en fait. C'est pas que dans ma tête, c'est pas moi qui me suis fait des films sur à quel point c'était systématique, à quel point c'était grand, à quel point c'était vraiment des médecins qui ont fait des choses aussi graves. C'est ça que ça m'a apporté, de rencontrer des personnes intersexes d'une part, donc à la fois, comme je l'ai dit, plus se sentir tout seul, se reconnaître en l'autre, et puis surtout t'as l'impression d'être plus fort. Pour vous dire, à la Pride de Paris où j'étais tout seul, je me sentais vraiment super mal, j'avais limite honte, en fait. Donc avoir honte le jour de la marche de fierté, c'est dommage quand même. Donc je baissais ma pancarte et tout, et quand j'ai rencontré mon pote, qui est aussi inter et qui avait sa petite pancarte justement où il y avait marqué invisible, barré et en dessous intersexe, et ben d'un seul coup je me sentais fort, alors qu'on était deux, les gars, c'est quand même pas beaucoup, quoi. Mais déjà on était deux face au monde, puis trois face au monde, ça donne une force phénoménale, et comme nous on a tellement peu à la base, on se contente de peu, et finalement le peu qu'on a, c'est déjà hyper précieux, et ça nous donne une puissance et un courage. Enfin, moi j'ai l'impression, en tout cas dans mon cas, quand je suis avec des inters, même si on est que deux ou trois, je me sens beaucoup beaucoup plus fort, beaucoup plus fier aussi, beaucoup plus à l'aise dans ce que je suis, et on sent qu'il y a des choses qu'on va dire que seuls les inters vont comprendre. Il y a des peurs qu'on a que les inters sentent instinctivement, et c'est ça, cette idée d'être à la fois plus fort et à la fois d'être compris si facilement, de pas être obligé de raconter, bah comme je le fais là, toutes les violences médicales, et de faire comprendre aux gens à quel point c'est grave et que c'est pas anodin et que c'est pas léger, quoi. Pour les personnes diadiques, donc les personnes qui sont pas intersexes, il va falloir leur expliquer dans quoi ça s'inscrit, le contexte social, sociétal, les violences médicales, qu'est-ce que c'est, pourquoi on parle de mutilation, etc. Une personne intersexe, hein, quand nous regardant devant une émission, je sais pas quoi, elle sait, on sera énervé des mêmes choses, on sera choqué par des mêmes choses, on sera triste, on sera... C'est vraiment cette sensation d'être un petit peu une sorte de... Ouais, de communauté. Voilà, c'est une communauté, et ça, le sentiment communautaire, je pense que en tant que personne minorisée et opprimée dans la société, on sait tous à quel point c'est précieux. Et après, il y a le côté plus politique, justement, donc le fait de faire partie d'un collectif. Moi, le militantisme est très précieux pour moi. Alors déjà, ça t'apporte de la fierté, je trouve, donc il y a tout un côté retournement stigmate, genre on sait qu'on est des freaks, mais on est fiers et on est vénères et on va se défendre pour nous faire une place, donc c'est ce côté révolutionnaire. Moi je m'intéresse en plus beaucoup à tout ce qui est à la littérature anarchiste, à tout ce qui est désobéissance civile et tout, donc c'est vrai que cette espèce de mouvement politique vénère et révolutionnaire, ça m'apporte beaucoup, parce que ça retourne finalement le rapport de force.
En tant qu'intersexe, on subit tout le temps, tout le temps, tout le temps. On est très tôt, dès qu'on est bébé parfois, ou alors à l'enfance ou à l'adolescence, qui sont des périodes où on est quand même vulnérable, où on est dans la construction de notre rapport à l'autre, au monde, à notre propre corps. C'est un développement psychique, émotionnel, physique et tout. Et du coup, on n'a pas du tout les armes, en fait, pour faire face à ça et pour se défendre. Alors que quand on grandit et qu'on voit un collectif qui est super vénère, qui fait des actions, qui fait des... on se dit, ah, mais en fait, on peut se battre. Et c'est ça, en fait, que j'aime avec le militantisme, c'est la bataille, c'est le combat. C'est le fait de dire, regardez, je m'appelle Micha, je suis intersexe, et je vais vous parler de violence médicale sans honte, parce que c'est pas moi qui dois avoir honte. C'est comme les histoires de violence sexuelle pour retourner la honte, et c'est ça que l'aspect plus combat, lutte, voilà, lutte, je préfère le mot lutte d'ailleurs, m'a appris, c'est que si on lutte, c'est qu'on est dans nos droits, c'est qu'on a des droits, c'est que pour l'instant, on les respecte pas, et on va gueuler, quoi. Et moi, j'aime trop gueuler. Moi, à chaque fois que je suis au mégaphone, je suis bien, quoi, parce qu'on a passé notre vie à se cacher, à se taire, à se bâillonner, à convaincu qu'on n'avait pas le droit d'exister dans l'espace public, quoi, que c'était interdit. Ma vie, elle a été changée, finalement. De toute façon, le militantisme, je pense que ça change la vie de beaucoup de monde, mais c'est vrai que de passer de être totalement caché, être un tabou vivant, quoi, limite, à être une petite figure d'un mouvement qui a tant besoin de lutte, bah, c'est un bouleversement total de mon existence. Ouais.
Et tu parles du collectif et de ce que ça t'a apporté. Qu'est-ce que ce serait d'être un ou une bonne alliée de la cause intersexe?
Déjà, je pense qu'il nous donnait beaucoup d'espace. Je pense qu'effectivement, la visibilité, c'est un concept qui est beaucoup... Enfin, c'est un mot qu'on entend beaucoup, mais du coup, il y a certains mots qu'on entend beaucoup comme ça. Du coup, on ne sait plus trop ce qu'ils veulent dire. Mais nous, la visibilité, en fait, elle est utile pour plein de raisons. Elle est utile parce que déjà, ça peut alerter l'opinion publique. Et effectivement, plus la chose sera connue, et d'une part, plus les gens ont envie d'en parler, donc d'autres personnes intersexes pourront se reconnaître et se battre et se défendre et se comprendre, etc. D'autre part, on aura plus de soutien. Au bout d'un moment, si on en parle plus, moi je pars du principe que les pouvoirs publics aussi devront se responsabiliser sur ces questions et que ça pourra passer notamment par des lois ou des mesures en fait qui nous protégeront et en tout cas empêcheront les actes graves qui sont encore, comme je l'ai dit, systématiques dans nos cas, surtout les enfants, quoi, l'urgence aujourd'hui. Il y a plein de façons de nous visibiliser, je pense que déjà dans les structures qui existent, moi je le dis souvent pour les associations, s'il y a des associations qui écoutent ou quoi, ou de mettre en évidence certaines brochures ou toute notre documentation en fait. On a une chaîne YouTube, on est sur les réseaux sociaux, moi j'ai une chaîne YouTube aussi, on a fait beaucoup de docs et de ressources à destination des alliés qui ont été faites exprès pour pouvoir bien visibiliser notre cause et nos revendications, etc. Donc je pense que mettre ça en évidence, et puis j'ai envie de dire que la sensibilisation, elle passe aussi à un titre individuel. Je sais pas à quel point vous participez à des événements ou quoi, mais par exemple dans des événements qui parlent de violences sexuelles ou de féminisme ou quoi, c'est des questions, les violences sexuelles là, ou les questions LGBT, la question de la confiscation de notre parole et de nos corps, question de l'importance de la représentation, la question des violences sexuelles, la question de tout ce qui oppression patriarcale, tout ça, c'est des questions qui nous touchent directement parce que c'est notre invalidation et les violences qu'on subit, elles sont directement dérivées de l'oppression patriarcale. Ne pas oublier, par exemple, dans un discours, dans un événement, tu vois, c'est un truc qu'on entend beaucoup, ça, genre, ouais, mais on sait tellement pas en parler, c'est tellement compliqué, on préfère pas faire parler les concernés, tout en sachant très bien qu'il y a très très peu de concernés qui en parlent. Hein, sur les réseaux sociaux, on est quand même très très peu, il y a très peu de figures intersexes connues, il y en a pas qui sont invitées dans des émissions ou quoi, tu vois. Voilà, avoir une petite fiche sur l'intersexuation et pouvoir être capable de donner une définition, d'insister à la fois sur le fait que c'est des variations qui sont saines et que les violences médicales, notamment les mutilations, auront des conséquences pour la santé. Quand on a un pote ou une pote qui va avoir un bébé, qui nous dit, ah, je me demande si ce sera un garçon ou une fille, on peut lui dire, tu sais, c'est un peu plus compliqué que ça, parfois, tu sais, il y a aussi les personnes intersexes, voilà, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que comme les parents n'ont aucun accès à ça, ils savent même pas que leur enfant est intersexe, ils vont penser que leur enfant est malade, a tel syndrome, telle anomalie, si les parents sont informés, si les parents savent qu'ils n'ont pas besoin de faire opérer leurs enfants, les opérations, en revanche, vont avoir des dommages irréversibles sur leurs enfants. Moi, je pense que la plupart des parents, ils vont dire, dans ce cas, non, mais ils le savent pas. Donc voilà, il y a des événements, il y a des contenus sur les réseaux sociaux, il y a plein de choses, quoi. Et partager, relayer, être présent physiquement aux événements, ça peut nous aider aussi, parce que ça fait du nombre, quoi.
Dans quelle mesure tu t'es sentie devenir adulte Et autorisé à rêver de faire le métier qui te plairait, en fait, par exemple, ne serait-ce que ça.
Ouais, bah la question de l'avenir est très compliquée pour moi. Déjà, je me sens pas super adulte. Alors là, je parle bien et voilà, je me suis un peu exercée et fait des tables rondes et des formations récemment, donc je suis encore en mode militant, sage et tout. Mais je me sens très effrayée par le monde qui m'entoure et très très angoissée. Hein. J'ai énormément de problèmes à fonctionner dans le monde qui est le nôtre aujourd'hui, dans la société. J'ai eu beaucoup de problèmes à m'intégrer très tôt à l'école, à faire des études, j'ai pas réussi. Dans les métiers que je fais, c'est souvent des métiers très très précaires que je quitte assez rapidement. Je sais formuler ma pensée, je sais réfléchir et ça va, mais j'ai énormément de mal à fonctionner, à être stable. Sans accompagnement, c'est quasiment impossible. J'ai beaucoup, beaucoup de problèmes psy, évidemment. Et ça me pose beaucoup de problèmes. Donc, en fait, la question de la projection dans le futur, etc., m'angoisse énormément. Et du coup, je n'y pense pas trop. Donc, pour l'instant, j'essaie de vivre au jour le jour, comme on dit, et de faire mes petites affaires. Et j'ai quand même des projets. J'aimerais vraiment créer du contenu médiatique ou culturel ou artistique sur les questions intersexes. Voilà, moi, s'il y a un truc qui m'intéresse, c'est l'art et ouais, tout ce qui est un peu culturel, quoi. Et du coup, c'est ça qui m'intéresse, le écrit, tout ça. Ça, c'est un peu mon objectif cette année, d'arriver à faire ça. Par contre, c'est vrai que j'ai toujours eu le sentiment que la société ne voulait pas de moi, quoi. Ça, c'était assez très tôt ressenti et très tôt intégré. J'ai très vite intégré le fait qu'il n'y avait pas de place pour moi dans le monde. Et que j'ai essayé, j'ai fait selon leurs codes et selon leurs règles, voilà, en m'adaptant comme j'ai pu, et j'y arrive pas. Ça m'a fait beaucoup, beaucoup de mal, évidemment, de me rendre compte que malgré les efforts démesurés que je déployais pour pouvoir m'intégrer, être normale et être acceptable finalement, ça ne marchait pas alors que la plupart de mes camarades faisaient le dixième des efforts que je produisais. Il y a des fois où je me dis que c'est tellement injuste que c'est invivable, ça m'arrive hein, de me dire là vraiment je sais pas si ça vaut le coup quoi, de continuer. Il y a des fois où je suis obligée de prendre de la drogue pour survivre, vraiment. C'est pas du tout un but récréatif ou quoi, c'est juste pour tenir le coup et pas me frapper la tête contre les murs. Voilà, je peux avoir vraiment des crises de violence très graves. Et puis il y a des fois où je me dis, bah, si la société veut pas de moi, c'est peut-être parce qu'elle me mérite pas. Et c'est pas plus mal, voilà. Aussi. Donc j'ose pas encore montrer ce que je fais. Voilà, j'ai des projets aussi à ce niveau-là et j'écris, j'aime bien écrire aussi. Voilà, je suis très intéressée par les productions artistiques un peu et je trouve que c'est ce qui nous manque dans la communauté intersexe encore aujourd'hui où on est principalement centré sur expliquer, sensibiliser, communiquer, voilà, défendre et tout et que on manque un peu de production plus belle en fait et je trouve que la diversité intersexe est belle et qu'elle mérite d'être montrée pas avec fétichisme ou pas comme des statues qu'on voit au Louvre mais plus comme identité politique justement et nos corps sont politiques, nos identités sont politiques, nos réalités sont politiques et comment on peut en faire quelque chose de beau et de différent de ce qu'on voit partout quoi. Ça ce serait mon grand rêve de participer à ça.
Dans quelle mesure ça t'empêche encore aujourd'hui ou non de relationner avec des personnes amicalement, sentimentalement ?
Au niveau relationnel, amoureux, tout ça, c'est hyper compliqué, voire impossible, parce que je me demande toujours soit si ça va être un frein, et pour les personnes qui savent déjà que je suis intersexe, par exemple sur les réseaux sociaux, c'est vrai que sur Twitter, il y a tout un côté culte de la personnalité, un petit peu, on a tendance à être un peu dans l'idolâtrie des fois de certains comptes, de certaines figures et tout. Ça a été un peu mon cas, je pense que c'est un peu en train de réduire aujourd'hui, mais ça a été mon cas pendant un certain temps. Et du coup, je me faisais beaucoup, beaucoup draguer sur Twitter. Et moi, la drague, c'est quelque chose qui me stresse énormément. J'aime pas du tout ça. Et tout de suite, je me demandais à quel point il y avait du fétichisme, quoi. J'ai très, très peur des fétichistes et j'en ai connu beaucoup. Voilà, quand j'étais plus jeune, j'ai quand même fait des grosses bêtises à ce niveau-là, au niveau des relations et la sexualité en général. Voilà, quand on est très perdu et très tout seul, on fait beaucoup de bêtises. Et ça m'a beaucoup abîmée aussi, je pense. Et du coup, j'ai très très peur des abus, j'ai très très peur des violences sexuelles. Et je ne sais pas dire non. Je ne sais pas du tout dire non. Encore aujourd'hui, ma notion de consentement est complètement... j'avais envie de dire floue, mais en fait, non, elle n'existe pas du tout. Du coup, si je sais que si je suis dans une relation, il y aura forcément un rapport de force, automatiquement, à moins que la personne soit super prévoyante et qu'elle ait une grande, grande connaissance approfondie de ces mécanismes-là. Moi, je sais que je pourrais pas me défendre si j'ai des sollicitations que je désire pas ou que voilà. Et ça m'est arrivé. C'était pas vraiment de la faute des personnes, mais en tout cas, ça m'est arrivé et puis j'ai peur, tout simplement. J'ai très peur des gens et j'ai très peur de l'intimité. Je suis pas du tout à l'aise avec mon corps. Pour moi, ça reste un... Même si je suis pas honteux d'être intersexe, je reste... Le rapport à mon corps reste très problématique. Et le rapport au contact avec mon corps reste très problématique. Et du coup, pour l'instant, je pense que c'est pas possible.
Donc je parle de lutte, puisque tout à l'heure tu disais que t'aimais pas trop le terme militantisme, je crois.
Non, j'aime pas. Je préfère combat. Le terme lutte que combat.
Que combat. Ok, et du coup, je me demandais si tu te voyais lutter donc, toute ta vie, ou si à un moment tu penses que... Ce sera peut-être trop et que tu voudras arrêter.
Alors, faut savoir que je veux arrêter à peu près tous les deux mois. Tous les deux mois, je me dis, bon, allez, c'est fini, j'en ai marre, j'ai autre chose à faire, ça me prend trop de temps, c'est trop dur. Parce que c'est vrai que c'est dur, hein, la lutte, le militantisme, surtout le militantisme, on est si seul, on est si isolé. Moi, je suis quasiment tout seul dans ma ville. Les personnes intersexes de tout le collectif, elles sont dispatchées dans toute la France, voire même au Portugal, ou voilà. On est tout seul, et c'est ça qui est dur. Moi, c'est ça qui me pèse, c'est de pas pouvoir, genre, voir mes potes inter régulièrement et on travaille ensemble sur des trucs. Non, faut toujours que les événements sont durs. On fait des voilà. Enfin, là, par exemple, ce week-end, j'ai fait une formation 4h30 avec un camarade. Hein, j'étais pas tout seul. Puis une table ronde. Puis voilà. Et on a l'impression qu'on est tout le temps hyper sollicité. Qu'on doit être, et aussi, on n'a pas le droit à l'erreur dans le militantisme intersexe. C'est ça qui est très difficile parce que tu dis la moindre connerie. Comme on est trois à parler, celui qui dit la connerie, elle va être répétée, la connerie. Et voilà. Ou faut qu'on soit super au point. Il y a des questions pièges un peu que les gens nous posent. Donc faut qu'on ait une très grande connaissance très aboutie de nos réalités. C'est un peu intimidant aussi, c'est très impressionnant, c'est très pressurisant. Moi, quand j'ai commencé à militer, j'étais en panique totale. Je me disais, mais dans quoi je me suis embarquée? Le CIA, c'est un fonctionnement, on est tous vraiment très très au taquet, quoi, et très très investis. Enfin, pas tous, mais ceux qui le sont vraiment avec une force quasiment inhumaine. Enfin, moi, ça m'impressionne. Même moi-même, je m'impressionne. Non, je sais pas comment je tiens. Donc, des fois, ouais, j'ai envie d'arrêter. En fait, plus qu'arrêter, j'ai envie d'être autre part que juste le combat, juste la lutte pure. Comme je le disais, faire des choses un peu plus artistiques, où on laisse plus la place à la parole, aux personnes, aux discours plus personnels ou moins politico-législatifs, centrés, quoi. Enfin, un côté plus humain, voilà, finalement. C'est ce côté... qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? Ouais, vous avez une idée de projet? Ben non, on n'est jamais comme ça. Enfin, c'est très difficile, quoi. On doit toujours être dans l'urgence, dans le frontal. C'est difficile, dans la communication brute, mais polie, mais c'est très adulte, quoi. Et moi, des fois, j'ai juste envie de crier, de péter des trucs et de visibiliser nos paroles et nos vécus et nos visages et notre humanité. Et puis ça use, ça fatigue tellement de lutter. C'est impressionnant. Moi, je fais des burn-out tout le temps. Et puis, en plus, dans le cas des personnes intersexes, c'est vrai qu'on l'oublie parfois même nous-mêmes. En tant que militants, on baigne tout le temps dans nos traumas, quoi. Donc, on va parler d'une table ronde comme ça où on visibilise les violences médicales et les mutilations ou quoi que ce soit. Et puis, quand on sort, d'un coup, on a super froid, ou on se met à trembler, ou on est hyper fatigué, ou on a mal partout. Et on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pourtant, j'étais assis, nanana. Mais en fait, c'est parce que t'as parlé de tes traumas pendant 4h30, en fait. T'as parlé de choses qui t'ont accompagné toute ta vie, qui t'ont valu un corps bousillé, parfois. Voilà, j'utilise des mots un peu durs, mais faut comprendre la réalité intersexe, à quel point elle est violente et à quel point elle est permanente, en fait. Permanente. À chaque moment de ta vie, tu sais que t'es intersexe et tu sais que t'as été abîmé à cause de ça, blessé à cause de ça.
Est-ce que t'as un espace à toi? Est-ce que t'as un endroit de réflexion, ou en tout cas un espace safe où tu te préserves et t'as ta petite bulle, en fait, loin de toute cette fatigue, pour éviter le burn-out, justement?
Depuis que j'ai 5 ans, je fais de la musique. Et du coup, ça m'aide vraiment, parce que déjà, quand tu fais de la musique, t'es obligé de pas aller sur les réseaux ou pas réfléchir ou pas... Voilà, t'es obligé d'être concentré sur ce que tu fais. Donc la musique, c'est vraiment mon endroit, et j'aime beaucoup les animaux aussi. Je vais avoir un petit chien, voilà, hein, je l'annonce. je vais l'avoir aussi, enfin je l'adopte aussi pour éviter de penser, pour avoir un peu d'amour, pour avoir une relation plutôt
cool et douce et légère et tout, et pour pouvoir m'émanciper un peu de... Parce que ça me quitte jamais, en fait, je réfléchis intersexe, je réfléchis militantiste, je le quitte jamais. Et là, je parle de moi, mais c'est le cas d'autres militants aussi, hein, où c'est quand même très... C'est une ombre derrière nous qui nous suit partout. Et je cherche aujourd'hui, justement, des moyens de pas penser qu'à ça, de pas penser que comme ça, de pas penser que sous ce spectre-là, parce que c'est hyper envahissant et ça te bouffe toutes tes réserves et toute ton énergie, et puis ta capacité de relationner avec les autres aussi, parce que tu penses que comme ça. Et puis je me suis rendu compte très récemment qu'en fait j'avais perdu, depuis que je suis militant, une sorte de capacité de joie et d'émerveillement. À la base, je suis quelqu'un de très joyeux et spontané et qui aime bien faire plein de trucs un peu fous et qui me réjouit facilement de plein de petits trucs. Et j'avais perdu ça totalement depuis que j'étais militant. Mais vraiment, il n'y a plus rien qui me réjouit, il n'y a plus rien qui me tente. Les seuls moments que je considère comme des moments de joie, en fait, c'est des moments où je me rends compte que je ne stresse pas. Donc que je suis un peu épargnée par le stress. Donc c'est pas des moments de joie, c'est des moments où t'es un peu laissé tranquille, quoi. Donc c'est des moments... Ouais, de répit, exactement. C'est des moments de répit, c'est pas du tout des moments de joie. À partir du moment où j'ai constaté ça, que j'avais plus du tout de rapport au loisir, au plaisir, à tout ça, j'avais plus du tout ça. J'avais des moments de répit et des moments de lutte. Et c'est... Enfin, maintenant que j'ai eu cette réflexion, on va dire, j'essaye justement de mettre des choses en place, en adoptant un petit animal, en faisant plus de musique, en essayant de réfléchir à comment être à la fois en lutte, mais aussi prendre plaisir à ce que tu fais. Pour l'instant, j'ai un peu de mal à concilier les deux. La lutte, ce que ça m'apporte, c'est justement, comme je l'ai dit, ce retournement de rapport de force où j'ai l'impression d'être acteur de mon identité, de ma vie, de ma réalité en tant qu'intersexe, et que je peux me battre, donc ça c'est très important. Mais en même temps, j'y prends pas de plaisir, c'est juste que sinon je subis. Et plutôt que subir, je préfère me battre, quoi. Je préfère être fière plutôt que dans la honte. Et moi, j'ai pas le choix d'être ni l'un ni l'autre, comme beaucoup de gens opprimés. Mais aujourd'hui, j'aimerais bien trouver un équilibre, ouais. En plus, ça devient urgent au bout d'un moment, parce que tu peux pas... Ce que je fais là, tu peux pas continuer à le faire des années et des années. Moi, je suis encore très jeune, donc j'ai encore beaucoup à apprendre. Et j'ai un équilibre à trouver aussi entre mes propres capacités, ma propre fatigue. Où, quand on est jeune et qu'on commence le militantisme, on a l'impression qu'on peut faire tout ce qu'on veut et qu'on peut tout être sur tous les plans et donner toute son énergie, au final on la crame. Et là ça fait peut-être 4-5 mois que je suis en low batterie et que je me dis non mais c'est bon, il reste 2%, ça peut tenir. Bah non, au bout d'un moment ça tient plus les 2%. Alors tu te recharges un tout petit peu mais t'as pas le temps de te recharger jusqu'au bout. Donc tu restes à 2-3-4% et t'as l'impression que tu tiens, mais en fait voilà, et ça c'est important pour beaucoup de militants, je pense, et pour moi aujourd'hui ça va être impératif, parce que aussi en tant que militant, surtout militant visible en fait, quand on a une figure un peu publique, ce qui est mon cas, au bout d'un moment on confond un peu ce que les gens voient de nous et ce qu'on sait qu'on est. Donc les gens voient en moi quelqu'un de relativement fort et solide, mais dans sa tête aussi, quoi, qui a un peu les idées claires et tout. Non, moi en fait, il faut que je me souvienne quand même que je suis une personne fragile qui a des traumatismes. Rien que de dire cette phrase, c'est pour moi difficile, tu vois, de dire j'ai des traumatismes et j'ai des grosses difficultés, j'ai beaucoup d'angoisse, beaucoup de peur, beaucoup de choses qui sont pas très claires dans ma vie par rapport à ma relation aux autres, au monde, à moi-même, etc. Et faut que je fasse attention, faut que je me protège en fait, faut que je me préserve, et j'ai le droit d'être protégée. Et j'ai le devoir même de me protéger, parce que le militantisme, ça t'expose énormément. Je pense qu'il ne faut pas confondre le Micha qui est invité partout et qui s'exprime super bien et tout ça. Et puis, quand je dis qu'il ne faut pas qu'on confonde, c'est moi, il ne faut pas que j'oublie que je ne suis pas cette personne-là. Ça, c'est ma personne publique et c'est important qu'elle existe et c'est très bien, je l'ai beaucoup travaillé. Il faut aussi que je me rappelle que je suis aussi le petit Micha qui n'est pas bien grand encore, qui est très abîmé et très fatigué et qu'il faut qu'il prenne soin de lui aussi.
Est-ce que Micha, tu t'es déjà senti majoritaire?
Oui, quand on fait des événements intersexes. Mais c'est pas qu'on est majoritaire, c'est en non-mixité, quoi. Donc. Et je me suis un peu sentie majoritaire à la Pride, grâce à tout un mouvement qui s'est créé bénévolement autour de nous. On a réussi à faire un mouvement qui a porté la lutte intersexe, et on a réussi à prendre la tête de la Pride, ce qui n'était pas du tout prévu au programme, donc on a fait ça vraiment... En pirate, justement. Là, on n'était pas majoritaire en termes de nombre d'intersexes, parce que finalement, on n'était pas beaucoup d'intersexes. Mais par contre, il y avait la banderole de tête, du coup, c'était « Stop aux mutilations intersexes », donc c'était un slogan de la campagne. Il y avait que des couleurs jaunes, il y avait que des drapeaux jaunes et violets, il y avait que des pancartes sur les enfants intersexes. Et là, je me suis dit « Ah bah putain, là, on est là, quoi, et ça se voit, et tout le monde le voit, et ça a peut-être été le grand moment de... Un des grands, grands moments de mon parcours militant, ouais.
Qu'est-ce qui te donne de la force ?
La colère. La colère me donne beaucoup, beaucoup de force. Je pense que c'est une force collective et individuelle qui peut être vraiment très bénéfique. C'est pour ça que je supporte pas le tone policing, d'ailleurs. Parce que les gens se rendent pas compte à quel point c'est précieux, en fait, d'être en capacité d'avoir de la colère. Donc ma haine, même parfois, ma colère me donne beaucoup, beaucoup de force pour me battre. Et puis le sentiment communautaire, le fait que je sais que je suis pas tout seul maintenant. Et que j'ai mes potes intersexes, mes camarades. Comme je dis, j'aime bien ce mot camarade. Et je crois encore. J'ai de la foi dans ce que je fais. Ça a du sens. Ça donne un peu du sens à ma vie aussi, qui est très décousue et très, très confuse, très compliquée. Je me dis, bah là, j'ai un objectif. On a un objectif. Je sais qu'un jour, on va avoir ce qu'on... On va obtenir ce qu'on recherche. L'amour.
Merci beaucoup.
Merci, Micha.
Merci.
C'était Extimité, le récit de la conscientisation et de la déconstruction de personnes minorisées.
Retrouvez-nous un dimanche sur deux sur Apple Podcasts, iTunes, Spotify, SoundCloud. Pensez à nous mettre 5 étoiles et plein de commentaires.
S'il vous plaît, merci.
Le générique était un extrait du morceau Tonabi de l'artiste Persian Empire.